Bonjour à tous et bienvenue sur le premier Comic City du mois de décembre, épisode numéro 45. Je suis avec Mister.
Mister, non, monsieur, monsieur, monsieur,
Monsieur.
c'est en français. Oui, faut garder le. Sinon on va se faire censurer.
Monsieur Anebani.
Oui, gardons le quota, voilà. Monsieur Nebeni.
Et je suis Steve et donc nous allons parler des premières sorties kiosques du mois de décembre. Franchement, première sortie kiosque assez moyenne.
Ah, je croyais que t'allais dire assez sympa.
Non, assez moyenne.
Ouais, bah ça dépend en fait. Ça dépend des titres. J'ai bien aimé la gamme Heroes ce mois-ci. Finalement, si, j'ai pas si mal.
Bah, il y a des trucs sympas, puis il y a des trucs un peu moins bons. Bah, de toute façon, on en reparle d'ici quelques minutes. On va commencer, comme toujours, par les news. Alors, pas grande news du côté de chez Panini, hein. Ils ont quasiment annoncé tout le planning 2011, les dernières petites choses. Ils vont republier l'histoire en deux parties qu'avait sorti Neil Gaiman et Andy Kubert, qui avait été publiée dans le Batman Universe numéro 1. Donc le Whatever Happened to the Caped Crusader.
C'était pas forcément la meilleure histoire republiée, mais bon.
Selon moi non plus, mais bon, voilà, enfin, comparé à Battle for the Cow, c'était quand même un peu mieux. Et enfin, ça c'est mon avis, hein.
À
Faut
mon avis, il
attacher.
republie surtout parce que c'est du Gaiman.
Ouais, voilà. Et donc ils vont republier ça dans un DC Icons librairie en août. Voilà, librairie, avec trois petites histoires supplémentaires qui étaient tirées du hardcover VO. Donc on aura des choses, deux Secret Origins, je crois, qui datent de 1989, ainsi qu'une autre histoire qui doit dater de 2000, je crois, si j'ai bien lu. Donc
De
voilà.
96, il me semble.
Ou peut-être, oui. Enfin bon, du matériel assez ancien, en tout cas.
Ouais, un petit peu recyclé quand même, hein. Bon.
Bon, c'est au moins le
Enfin,
plaisir
voilà.
de voir quelque chose de republié. Alors c'est vrai que là c'est republié très vite, il y a des choses qu'on attend qu'ils soient republiées depuis un petit moment et qui ne le sont toujours pas. Bon, en tout cas dans les coms sur l'article de Panini, ça gueule. C'est encore gentil quand je dis ça comme ça.
C'est assez chaud. Mais comme tu dis, oui, il y a pas mal de choses qui devraient être éditées, mais l'année prochaine, il y aura pas mal de bonnes choses rééditées, notamment en Deluxe, que tu as annoncé d'ailleurs précédemment. Donc, réécoutez les news des précédents épisodes pour savoir de quoi on parle.
Voilà. On continue avec les news Panini, les X-Men Extra. Donc il y a un spécial Wolverine en février. Et le numéro suivant, il y aura X-Men Forever, puis X-Factor Forever, et enfin retour à X-Men Forever. Donc on aura la mini-série X-Factor Forever, écrite par Louis Simonson.
Écoute, si elle est traduite par Geneviève Coulon, je suis preneur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Malheureusement, il y a des chances.
Comme
Donc,
tu es méchant.
ah bah,
Mais tu as raison,
oui, mais en
donc tu
même
n'es pas
temps,
méchant.
le numéro 2, j'ai même pas réussi à lire. C'est pour te dire, je l'ai acheté, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai lu juste la première histoire et je me suis dit non, c'est trop dur, je n'y arriverai pas. Voilà.
Enfin, pour terminer, encore quelques annonces de 100% Marvel qui sortiront tout le restant de cette année. On aura droit à Black Widow, donc il y a des chances qu'on ait la série au complet, c'est-à-dire 8 épisodes, ce qui devrait faire un assez gros 100% Marvel. Deadpool Corps, alors là à déterminer s'il s'agit de Prélude to Deadpool Corps qui est une mini-série en 5 ou la série Deadpool Corps qui pour le moment je crois continue toujours aux États-Unis. Quoi qu'il y ait un vote, hein, comme tu en avais parlé dans
Ouais.
Comics Weekly, un
Soit
vote.
pour éliminer le team-up, soit pour éliminer le Deadpool Corps. Mais qu'importe, de toute façon, il y a déjà quand même pas mal d'épisodes. Et s'ils font un 100%, ce sera peut-être les premiers épisodes simplement. Et ils
Je crois
publieront la suite sans
on doit en
succès.
être aux 5 ou 6, je crois, mais je ne pourrais pas dire de bêtises. On aura aussi le droit, donc, dans ces 100% Marvel, à Avengers Origins, Thor for Asgard et Spider-Man Fantastic Four. Voilà.
Donc des séries que je ne connais absolument pas. Enfin, j'en ai entendu parler, mais. Voilà, je sais pas si elles sont bonnes ou pas, et la première, Avengers Origins, par contre, là, je vois pas du tout ce que c'est.
Alors voilà, comme ça, non plus, je vois pas. Mais peut-être que ça nous dira quelque chose quand on saura exactement les épisodes publiés dedans.
Et peut-être qu'on le chroniquera, d'ailleurs, surtout.
Peut-être, oui.
Sait-on jamais.
Donc, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, c'est sûrement pour la fin de l'année 2011, donc il y a encore le temps de voir venir. Et donc ça conclut les news Panini, comme je disais, c'est pas grand-chose.
Alors, on va peut-être passer aux news ciné, enfin, à la news ciné, puisqu'il n'y en a pas 36 000. Jon Favreau, qui a réalisé Iron Man 1, Iron Man 2, ne réalisera pas le troisième. Voilà.
Oh,
Ah
c'est comme c'est dommage.
bah, enfin, c'est vrai que non, mais enfin, tu le penses vraiment, là, parce que là, t'as le perdu.
Mais oui et non, enfin j'en sais rien, en fait j'ai toujours pas vu Iron Man 2, honte à moi je sais, mais moi j'ai pas le temps. Et
Ouais,
donc
enfin bon.
je sais pas ce qu'il vaut. En tout cas, en se basant sur le premier, c'est vraiment dommage. Mais comme j'ai pas vu le 2, voilà, je réserve mon avis.
Non, bah malgré tout, c'est vrai que le deuxième, je l'ai pas tellement aimé, mais néanmoins, il tenait bien le personnage quand même. C'est quand même inquiétant. Voilà, c'est quand même inquiétant. Je ne sais pas vers qui ça va aller, du coup, ce projet, mais en tout cas, il l'a annoncé sur son
Uwe Boll.
Twitter.
Moi, je veux Iron Man 3 réalisé par Uwe Boll.
Renard, ça pourrait être marrant.
Oui,
Ça
oui.
pourrait être 1 heure et demie de pure déconnade.
Ah oui, ça c'est sûr.
Mais donc, comme je disais, Jon Favreau l'a annoncé sur son Twitter et il va se consacrer essentiellement à la réalisation de Magic Kingdom qui portera sur le parc d'attractions de Disney. Alors, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si c'est un film avec des acteurs de chair et de sang ou si c'est en image de
De
synthèse.
l'animation, ouais.
Oui, de l'animation. Donc, en tout cas, voilà, une bien triste nouvelle pour les fans des deux premiers opus d'Iron Man. Alors, on va passer aux séries télé. Tu sais que bientôt, c'est la 68e cérémonie des Golden Globes aux
Oui.
États-Unis, qui aura lieu le 16 janvier d'ailleurs, et qui sera retransmise sur NBC. Eh bien, Walking Dead, la série télévisée de 6 épisodes, est nominée, aux côtés d'autres séries comme Dexter, que je conseille à tout le monde, The Good Wife, Boardwalk Empire ou encore Mad Men, l'indémodable.
Elle est nominée dans quelle catégorie?
Alors, bonne question. La catégorie, pardon, des séries télévisées dramatiques.
D'accord.
Oui, c'est sûr que les autres, c'est pas non plus la franche
Parce que
rigolade non
bon,
plus.
voilà, si c'était nominé dans la catégorie comédie, j'aurais pas compris. Mais bon.
Non,
Ça aurait
mais...
pu être nominé pour le meilleur maquillage. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de récompenses au Golden Globe,
Ils
donc c'est
sont
pour ça.
peut-être, ils sont peut-être. Ce serait pas étonnant qu'ils soient nominés dans d'autres catégories aussi. Faudrait éplucher au fait la liste des catégories. Il y en a beaucoup. Mais en tout cas, cette catégorie-là, ils ont leur place quoi dans cette catégorie. C'est indéniable. Mais par contre, ils sont face à quand même à de rudes concurrents. Il me semble d'ailleurs que c'est Dexter qui avait remporté le prix l'an dernier.
Mérite-t-il de gagner? Ça, voilà.
Voilà. On en reparlera sans doute prochainement des Walking Dead.
Oui, on fera un petit spécial concernant toute la fin de la première saison, en fait, ce qui englobe la première saison. On avait fait le premier épisode, on va parler de la fin de la saison.
Oui, il s'est passé pas mal de choses, hein.
Ouais.
Dont d'ailleurs on peut le dire, le fait que toute l'équipe de scénaristes s'est fait virer à
Oui,
la fin
alors,
de
en fait,
diffusion.
c'est pas techniquement vrai, puisque Frank Darabont a annoncé que non, c'était une mauvaise compréhension de la part des journalistes. Ils réfléchissent à peut-être changer quelques scénaristes, mais ils gardent les scénaristes pour le moment.
Ah d'accord,
Apparemment.
ils se sont pas tous
Apparemment.
vidés encore.
C'est que
Alors
certains veulent partir vers d'autres projets, donc notamment la liste scénariste du pool, donc voilà.
on va passer vers un truc plus joyeux, enfin plus joyeux, plus réussi peut-être, la partie jeux vidéo avec un teaser, Batman Arkham City. Alors
Ah
un
là là.
teaser, tu allais dire.
Je disais, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau.
Non mais enfin voilà, t'as pas l'air franc du tout, mais c'est vrai,
Ah bah si
c'est
si, non
vraiment
mais
beau.
je suis juste fatigué, mais c'est parce que je me suis tapé une journée de boulot, donc c'est pour ça, mais voilà.
Mais en tout cas, on a vu le trailer, on mettra le lien vers le trailer. C'est tellement beau qu'on a peine à croire que c'est des images de synthèse.
C'est juste magnifique.
Voilà.
C'est
Alors, faut préciser que c'est pas le trailer du jeu, hein, on voit pas de
Non,
gameplay
c'est.
dedans, c'est la bande-annonce, quoi. C'est
Oui, c'est la scène d'intro
la scène
du
d'intro.
jeu, je pense. En tout cas, c'est magnifique. Alors oui, c'est vrai, ce ne sera sûrement pas ces graphismes-là avec lesquels on pourra jouer pendant les phases de gameplay, mais putain que c'est beau, quoi.
En tout cas, ça augure du meilleur. Hugo Strange serait donc le grand méchant de cette aventure. On rappelle que Arkham Asylum, hein, c'était le premier volet, on va dire, a remporté un très très grand succès et mérité, puisque le jeu était plutôt pas mal. Ça sortira sur PS3, sur Xbox 360. Alors je ne sais plus s'il y a une sortie PC de prévu.
Il y a eu une sortie PC d'Arkham Asylum, donc on peut
Donc il y a des
penser
chances.
qu'il y aurait des chances, ouais, que ça sorte.
Donc, au rayon des jeux vidéo, on a aussi vu un petit trailer, alors qui en montre pas beaucoup, un petit trailer
Celui-ci,
de...
je ne l'ai pas vu.
Voilà. Bon, tu t'as rien raté, hein. C'est pas grandiose comme Arkham City. C'est X-Men Destiny, un jeu qui sera réalisé par Activision. Donc, bon, Activision et les super-héros, je crois qu'Activision avait déjà fait pas mal de jeux. Bah, ils avaient fait, par exemple, les fameux Marvel Super-Héros, je crois que ça s'appelait tout simplement.
Oui, enfin, les jeux de... De beat'em all,
Bah, en fait, c'était oui, c'était une espèce de mélange entre du RPG, du beat'em all. On pouvait un petit
Ouais,
peu
qui
updater
était...
ses persos.
C'était vraiment sympathique, ça.
Enfin, le concept était pas mal. Bon, les graphismes n'étaient pas grandioses, grandioses, mais le concept était pas mal.
Mais il y
Il y en a
avait
eu
eu un
deux.
DC aussi. Il y a eu aussi une version DC
Et il y a
de
eu
X-Men.
une version X-Men aussi, il y a très
Oui,
longtemps.
aussi. Ouais.
Apocalypse, je crois. Mais enfin voilà,
Non,
donc.
c'était pas X-Men Legends? Oh, je sais plus. En même temps, voilà, ceux-là, j'y ai pas joué, donc à part le DC, je n'ai pas joué. Si, j'ai joué au Marvel aussi. Le premier.
Mais enfin, donc, bon, Activision, ils ont un petit peu l'habitude des super-héros, donc on peut espérer quand même un truc pas mal. Par contre, je ne sais pas du tout sur quelle console ça va sortir. Il y a de fortes chances que ce soit également sur PS3 et Xbox 360, de toute façon. Donc voilà, donc bah, on en reparle dès qu'on en voit plus, puisque là, le trailer, c'est vraiment un tout petit truc, hein, un petit teasing, quoi.
Bon, on mettra aussi le lien vite fait sur le... Pourquoi vite fait, je ne sais pas. Sur
Oui, surtout.
sur le poste de news. Voilà. Sur
Exactement.
le poste du podcast. Oh là là, j'ai... C'est dur. C'est dur.
Allez, on va y arriver. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec les reviews dès à
Oui.
présent.
On va passer donc aux sorties kiosques de ce début de mois. On commence cette fois-ci avec celui dont on n'a pas parlé le mois dernier. Spider-Man numéro 131. Oui, parce qu'on va faire celui de ce mois-ci quand même, on va pas faire celui du mois dernier dont on n'a pas parlé.
Voilà.
Voilà.
Exactement. D'ailleurs, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on n'en parle plus? Non, ça
Non,
fait
non,
en vrai.
juste le mois dernier, on l'a zappé le mois dernier, puisqu'il était que très moyen et qu'on avait un programme très serré, puisque c'était le double épisode.
Eh bien, vas-y, je te laisse annoncer les critiques comme il se doit.
Donc, trois histoires différentes dans ce magazine, mais quatre épisodes US. Donc on commence par le Amazing Spider-Man numéro 615 et 616. Le scénario de Fred Van Lanty, les dessins sont de Javier Pulido. Et c'est donc le retour du Sandman.
Voilà, dans cette fameuse saga qui a été traduite par Le Gant en français.
Gauntlet en VO.
Alors, je ne sais pas si la traduction est très judicieuse, puisque Gauntlet, c'est... Moi, j'aurais traduit ça par une espèce de... Je sais pas, c'est un petit peu un tournoi, quoi. C'est un petit peu...
C'est en grosso modo une espèce de situation dans laquelle on se retrouve à affronter tout un tas de situations de pire en pire, en fait.
Oui, d'ennemis à la chaîne, quoi.
Alors, je ne sais pas, peut-être que le gant, c'est véritablement une expression comme ça en français, mais en tout cas, je ne la connais pas, donc je ne vais pas
Mais non,
commenter
mais en
ça.
fait, à mon avis, ils ont comment dire, ils ont compris le gantelet, quoi, comme un gant, tu vois.
Je ne sais pas, peut-être.
Enfin bon, ça m'a semblé bizarre. Bref.
Bref. Donc, Sandman se retrouve en compagnie d'une petite fille qu'il a adoptée et qu'il considère comme sa fille.
Ouais, un peu comme dans le film. Finalement, dans Spider-Man 3, Sandman se retrouve avec une fille. Bon.
Oui, mais je ne l'ai pas vu.
Oui, mais en même temps, à mon avis, c'est pour ça que Fred Van Lente a créé ce personnage de la fille adoptive de Sandman pour en se rapprocher un petit peu de la version du film.
Dans ce cas-là, c'est pas trop mal vu alors.
Ouais. Bah dans ce cas-là, c'est un peu. Enfin voilà, quoi. C'est pas une idée qu'il a eue comme ça de lui-même, à mon avis. Il a été largement inspiré par le film. À mon avis. Enfin bon.
Bref, cette fille, enfin cette fillette croit être la princesse d'un royaume, voilà, et son père, le roi, donc Sandman, qu'elle ne voit jamais, lui donne tout ce qu'elle a besoin, donc c'est-à-dire la nourriture, des jeux, tout ça.
Bah, sans mauvais jeu de mots, c'est un petit peu le marchand de sable, quoi. C'est-à-dire c'est un petit peu son personnage imaginaire qu'elle vénère quand elle va dormir, puisque bon, elle n'a pas une vie très drôle, et du coup elle a une espèce de relation particulière avec ce personnage qu'elle imagine, et au fait ce personnage existe puisque c'est le Sandman, comme tu dis. Pas le Sandman de DC, hein,
Bien évidemment, oui.
évidemment. Mais bon.
Quoique il y en a deux même chez DC, en fait.
Oui. Donc là c'est Sandman, le vrai, quoi, celui qui est constitué de sable 100% naturel, pas. Et donc voilà, donc bah, c'est plutôt assez, comment dire, féerique à certains moments. Bah vas-y, écoute,
C'est
je...
assez touchant hein, pour la petite fille. On
Ouais,
se met
oui.
rapidement à la place de la petite fille, donc Van Lanty a bien réussi son coup. De son côté, lui, Spider-Man, enquête un petit peu sur ce qui s'est passé, puisque son ami Carly Cooper, qui travaille donc au labo, qui est une experte, quoi, la Gil Grissom de l'univers Spider-Man,
Exactement, oui.
se retrouve accusé puisque des armes ont disparu, des armes pièces à conviction ont disparu du coffre-fort dans lequel ils étaient rangés, et donc elle est accusée d'avoir mal fait son travail. Et donc il va enquêter un petit peu sur ces armes qui ont servi à des meurtres, et donc bien sûr tout cela est relié avec cette petite fille, puisque au nombre des morts, on compte la mère de cette petite fille, ainsi que son avocat et une troisième personne, et donc il fait le lien, il retrouve Sandman, qui s'était caché sur une île désertée.
Voilà, j'ai trouvé ça un peu longué, la première partie, tout le côté enquête. Je croyais que ça traînait un petit peu en longueur, l'exposition des faits, etc.
Bah c'est vrai que Spider-Man dans une enquête pure, une enquête qui aurait pu être confiée aux soins de Batman finalement, puisque c'est vraiment une enquête très Batman, c'est pas vraiment ce qu'on attend de Spider-Man. C'est agréable à voir de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend réellement de Spider-Man, quoi. Même si, bon, bien sûr, Spider-Man enquête quand même, mais là c'était vraiment travail de gros détective, quoi.
Ouais. Alors, il essaie toujours de faire des petits gags avec Spider-Man, mais c'est toujours un peu forcé, même beaucoup en ce moment.
Là, c'est un peu forcé, effectivement.
Ouais, là ça tombe à plat généralement. Donc voilà, une première partie assez...
Par contre, Sandman a de nouveaux pouvoirs.
Oui, alors voilà, c'est ça. En fait, il nous fait un petit peu son Madrox, quoi.
Ouais, voilà. Complètement. Et je trouve que c'est une bonne idée de ces nouveaux pouvoirs. Après, l'exécution en elle-même, et, je veux pas trop en révéler, mais voilà, les problèmes que cela pose me gênent un peu. C'est un peu trop facile, quoi.
Bah, Madrox, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ça le problème, c'est que... Oui,
pense
non, quoi.
Tout à ça, ouais.
C'est pas si original que ça, finalement. C'est un petit peu du repompage sur un autre personnage Marvel, donc, ouais. Bon, la confrontation est sympa.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, bon, puis bon, la fin est quand même relativement touchante, la fin de l'épisode.
C'est vrai que ça fait penser à du Batman, maintenant que tu le dis, en plus. Un épisode de Batman, j'aurais bien vu ça dans le dessin animé Batman.
Ou même dans un détective comics, quoi, un peu plus sombre, avec Clayface, par exemple, à la place de Sandman, et voilà.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Bref, bon, ça reste quand même sympathique, mais c'est moyen, quoi.
C'est pas mauvais, mais c'est moyen, voilà, exactement. Et d'ailleurs, non, il y a une autre complainte quand même, c'est que finalement, on voit pas trop le lien avec la fameuse saga Gantley. Finalement, Spider-Man, certes, affronte d'anciens ennemis, mais
voilà, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Pour comparer aux premiers épisodes qu'on a eu, où à chaque fois ils sont recrutés par la femme du chasseur.
Oui, par sa fille même, je crois, d'ailleurs, maintenant. Enfin bon, c'est compliqué, ils sont une famille nombreuse, ils ont tous la même tête. Ils ont tous la même obsession, enfin c'est fou.
Du coup, là, c'est pas le cas. Mais, comme les autres, il a des pouvoirs updatés. Donc, peut-être qu'il y aura...
Ah, ouais, toi tu le vois comme ça, d'accord, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Oui, il y a toute une... Effectivement,
parce
ils ont
non
tous des pouvoirs un peu
voilà.
Updatés.
Tous ces ennemis reviennent, mais en plus, ils ont des pouvoirs supplémentaires, comme Electro, le mois dernier, a de nouveaux pouvoirs. Voilà, bon.
Et ils ont un petit peu des nouvelles origines, comme on va le voir tout de suite, d'ailleurs.
Donc, on passe à l'épisode d'après. Amazing Spider-Man 617. Scénario de Joe Kelly et dessin de Max Fiumara. Donc, résolument, on a quand même deux artistes, cette fois-ci, qui sont pas des artistes super... Je sais pas comment dire ça, super shiny, quoi. C'est pas des artistes super en vue, non plus, en général. Ça fait presque plus...
On dirait de l'indé, quoi. On dirait de l'indé.
Un peu, ouais, voilà. Un petit côté indé, dans les...
Mais on a eu ça, déjà, rappelle-toi, avec, Canet, je crois, sur Deadpool. Enfin, l'épisode avec Deadpool. Mm-hmm. Qui était vraiment particulier.
De même qu'on avait eu, comment il s'appelle, celui qui entendait, mais avec Mark Waid.
Paul Azaceta.
Paul Azaceta, voilà.
Ouais.
Donc,
et là, on continue, dans ce style-là. Alors, autant Javier Pulido, pas mal. Franchement, je trouvais que ça collait bien avec le Sandman, etc. Autant, Max Fiumara, oulala, j'ai vraiment du mal.
C'est un petit peu brouillon sur certaines scènes. Faut dire que le personnage qui arrive dans cet épisode, donc c'est le nouveau Rhino, avec son armure, ça donne un côté brouillon. Ça sied pas énormément à son style, je trouve, mais bon, voilà. Des fois, c'est un peu fouillis, quoi.
Mais non, et oui, Peter Parker, on a du mal à le reconnaître aussi.
Ouais.
Je trouve, là, sous le crayon de Fiumara, c'est un petit peu compliqué.
Donc, on a principalement deux phases dans cet épisode. On a la phase Peter Parker qui est à qui on fait une nouvelle offre, c'est-à-dire que Ben Urich lui fait une offre de rejoindre le frontline à plein temps, en le payant plus cher de 10% de ce que lui paye Jameson pour travailler chez lui dans le cabinet du maire.
Ouais.
Et donc il va réfléchir à ça. Et puis Nora l'amène au casino pour une histoire, un petit reportage quelconque, quoi. Donc on a cette partie-là. Il passe un bon moment avec Nora, qui aurait la possibilité d'être une petite amie pour Peter Parker. Le seul reproche de Nora, c'est qu'elle est assez gamine et que j'ai peur que si ça se concrétise, ça fasse retomber Peter un peu plus en enfance, et c'est déjà pas vraiment la chose qu'il faudrait, je pense.
Oui, exactement. Ouais.
Elle est un peu trop faux-folle, quoi. Quoique ça peut aussi faire mûrir Peter, puisqu'il va falloir qu'il compense. Après tout, pourquoi pas. En tout cas, là, on lui donne vraiment ce potentiel petit ami. D'ailleurs, on lui fait faire un lapsus révélateur assez drôle. Et puis la deuxième phase, c'est l'ancien Rhino que l'on voit, qui s'est rangé, et qui est confronté au nouveau Rhino.
Oui, il s'est rangé des voitures, alors que le nouveau, c'est Autorino.
Putain, cet enchaînement. Oh, cet enchaînement de merde. Oh la vache. Oh putain.
Voilà, je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul comme ça.
Ouais, mais bon, vaut mieux pas les garder parce qu'après ça file des maladies quoi. Quand c'est pourri comme ça, ça file des maladies, c'est obligé.
Oui.
je vais essayer de me recentrer. Cet ancien Rhino, c'est vraiment totalement rangé. Il est il fait partie de la sécurité de ce casino. Et d'ailleurs, pareil, là encore, on a un super attachement, je trouve, au personnage, qui a vraiment laissé tomber le côté super vilain, qui est devenu quelqu'un d'honnête, bien. Ça, c'est pas mal fait. Et puis ce nouveau Rhino, qui, je trouve, n'a aucun charisme.
Non, c'est un espèce de Rhino d'été, justement,
Avec une armure, quoi.
Qui ressemble à un gros tank.
Voilà. Bon, à part l'histoire avec l'ancien Rhino, qui est, moi, je trouve, assez sympathique.
Et, avec sa nouvelle copine.
Voilà, qui est touchante, en fait, puisque, c'est quand même... le vilain qui s'est rangé, qui est devenu nickel.
Grâce à une femme encore. C'est le point commun d'ailleurs entre le premier et le deuxième épisode. Enfin, le premier et le deuxième arc. Enfin non, le premier arc et le deuxième épisode.
tu vas y arriver.
Voilà, on va y arriver. C'est que les deux méchants sont en fait, ont été changés, plus ou moins. Mmh. Pas de la même façon, mais ont été changés grâce à la présence d'une femme finalement. Ou d'une fille. Enfin, présence féminine.
Et donc ce nouveau Rhino, on va le revoir, c'est certain, mais je suis pas pressé quoi. En tout cas, il m'a vraiment pas convaincu.
Oui, on va le revoir d'ailleurs dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'il y aura un épisode qui fera suite à celui-là dans quelques mois.
On finit par un micro épisode qui est tiré de Web of Spider-Man numéro 3, au scénario toujours Fred Van Lanty et Nick Dracota au dessin. Dragota, pardon. Et en gros, c'est une piqûre de rappel pour les origines de Rhino, l'original, et sa première mission, et c'est vraiment drôle, quoi.
Ouais.
Parce que Rhino est très bête.
Autant Fred Van Lanty, tu vois, c'est lui qui va faire, en fait, à chaque fois, les espèces de rappels des origines des vilains durant cette saga.
Sur Electro, le mois dernier, sur Electro, c'était très chiant.
Oui. Par exemple, et quelquefois Fred Van Lanty, alors là il l'a pas fait sur Rhino, mais quelquefois il ajoute des choses aux origines des vilains, et ça donne un petit côté Chapter One qui est un peu énervant. Donc là cette fois-ci on n'a pas eu ça sur Rhino, il y a un ajout dans le sens où on nous montre quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu précédemment, mais ça reste marrant et totalement dans le personnage. Quoi.
Voilà,
c'est très drôle.
Ça prend pas beaucoup de pages, là, c'est très vite, mais c'est drôle, donc voilà, c'est sympathique, quoi.
Ouais.
Donc bon.
On va pas dire ce qui se passe, mais c'est vraiment très drôle.
Ouais. Un Spider-Man 131, somme toute moyen, mais relativement agréable, quand même.
Ouais, voilà, enfin, comparé à ce qu'on a pu avoir un peu avant, voilà, ça va.
Bah, je trouve qu'il est quand même nettement meilleur que le mois dernier, quoi. Avec l'Electro, je me suis fait chier.
Ah, tu l'as lu entier?
Oui, je l'ai lu, je l'ai lu en entier, et je me suis fait profondément chier, quoi.
Bah, le mois dernier, je veux dire, il y avait juste un truc qu'on peut préciser peut-être, puisqu'on n'en a pas parlé du tout. Le Bugle a disparu.
Voilà.
C'était vraiment le gros événement. Sinon, à part ça, rien à en dire.
Voilà, très bien. Donc c'est tout pour le Spider-Man et on va passer maintenant à la partie du crossover du moment, Siege. On commence donc avec Siege numéro 3. Et premier épisode, c'est Siege numéro 3.
Oh, quelle surprise.
Quelle surprise. Le scénario de Brian Michael Bendis, les dessins d'Olivier Coipel et l'ancrage de Marc Morales.
Oh, Marc Morales, que tu... Bon, bref.
Donc, les gentils passent à l'offensive.
Les gentils passent à l'offensive, c'est la bataille finale, comme je t'ai dit l'autre fois. Et c'est plutôt sympa.
Et ce qui m'a surpris, finalement, c'est que c'est la bataille finale, mais le grand ennemi tombe.
Ah oui, mais alors justement, le grand ennemi, quel est-il?
Bah oui, finalement, on en vient à se demander qui est le plus grand méchant des deux.
Oui, quel est le plus dangereux en tout cas, le choix est vite fait.
Dans l'immédiat, on voit qui c'est, après sur le long terme.
Voilà. Alors moi j'ai eu très peur. J'ai eu très 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 peur. Alors je sais pas comment le dire sans que ce soit vraiment un spoiler, mais en même temps c'est pas vraiment un spoiler puisque c'est pas vraiment ce qui se passe. Enfin bref, tu m'auras compris. Il démasque Iron Patriot. Et d'un seul coup, il a une tête un peu bizarre. Et moi, je me suis dit, oh! En fait, c'était un scroll depuis le début. Mais non. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Mais j'ai eu très peur. Parce que franchement, quand j'ai vu les images au début, alors en fait, je les ai vues il y a plusieurs mois déjà, puisque j'avais feuilleté le numéro en VO, j'ai cru vraiment qu'ils allaient nous dire qu'en fait, c'était un scroll depuis le début. Et là, ça m'aurait vraiment fait chier. Mais apparemment, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça.
Ça aurait pu être une bonne idée de plan de secours, d'invasion. Mais bon, comme on sait que les Skrulls sont partis tous en fuite et sont faits exterminer par Black Bolt juste avant War of Kings, voilà, c'était pas possible et c'était pas logique, quoi.
Ouais.
Donc voilà, bon, bah c'est terrible, c'est véritablement la chute d'Osborn, quoi. Il est radié par le président, il est arrêté, il est démasqué. Voilà.
Eh oui.
Mais ce n'est pas encore fini, car il reste le plus.
Le plus gros morceau.
Ouais. J'allais dire le plus violent, mais ouais, ça revient, ça correspond aussi.
Mais on peut pas vraiment ne pas parler de cette chute de d'Asgard, quoi. Puisque ça se termine un peu là-dessus aussi, c'est que.
Et tous les épisodes d'ailleurs se terminent là-dessus, c'est une chose qui est plutôt sympathique. Tous les épisodes du mois se terminent dessus.
Oui, c'est-à-dire qu'à la manière d'une série comme Lost, on voit ce qui s'est passé pour chacun des persos, chacune des équipes, en parallèle, et tout se termine sur ce point d'orgue, c'est la chute d'Asgard, tout s'écroule. Bah, que dire de plus? Franchement, c'est un épisode 100% action. On s'ennuie pas, c'est
Non, on
normal.
s'ennuie pas, ça va vite, ça va très vite.
Voilà, ça va vite. Non,
On a
c'est vraiment sympa finalement.
des superbes pages de Quapel. La chute d'Asgard est magnifique.
Oui. Bah, la chute d'Asgard est assez réussie de la part de tous les artistes qui s'y sont essayés au fil des épisodes qu'on va chroniquer. Donc, mais en tout cas, oui, celle de Quapel est vraiment somptueuse. Et bah, que dire, sinon que c'est sympa. Je m'attendais vraiment pas à apprécier Siege et finalement j'aime plutôt bien.
Mais bon, encore une fois, c'est parce qu'on savait, enfin, on s'attendait pas à grand-chose, donc au final, on est surpris en
Voilà,
bien.
certainement. Et d'ailleurs, grosse surprise, la série dont on va parler.
Siege Embedded numéro 3, scénario de Brian Reed, dessin de Chris Samnee.
Alors bah, on reprend en fait là où on avait laissé Ben Urich. Il essaye d'infiltrer la base d'Osborn.
Il se cache dans un avion qui part
Sur Asgard justement.
sur Asgard. Comme un grand fou.
Et il se retrouve en plus dans l'avion avec ce journaliste
Keller, il s'appelle.
Keller,
Celui qui a la botte d'Osborne.
qui est vraiment l'antithèse de Ben Urich. Et bah, c'est assez drôle. Bon, il se passe. Évidemment, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer.
Dû à la présence quand même d'un des Dark Avengers dans l'avion.
Exactement.
On ne dira pas lequel.
Voilà. Mais en tout cas, il y en a un dans l'avion. Et bah voilà, c'est alors beaucoup plus d'action que dans les précédentes parties. Petit regret, on ne voit pas Volstagg
Non, pas dans cet épisode, c'est
du
vrai.
tout. Mais on le retrouvera tout à l'heure dans une autre série. Et bah enfin quand même, c'est toujours aussi sympa. Moi j'aime
Ouais,
beaucoup.
ça reste très très sympa
Ça, j'aime
comme
beaucoup, et
série.
puis c'est totalement délirant ce côté, d'un seul coup il se retrouve propulsé en plein cœur de l'événement, alors qu'il s'y attend pas du tout.
Bah, Ben Urich est une sorte de John McClane du journalisme.
Totalement, ouais. Mais un John McClane maladroit et malchanceux, quoi.
Ouais, aussi.
Ou non,
Bah,
plutôt maladroit et
ouais, parce
assez
que
chanceux
bon.
quand même, puisque.
Malchanceux, John McClane était totalement.
Oui.
Donc, ça lui tombe toujours sur la gueule alors qu'il a rien demandé. Un peu
Non
le
mais
cas de.
c'est.
Sauf que là, Ben Urich lui demande ce que ça lui tombe sur la gueule. C'est ça la différence.
Voilà. Non mais c'est très drôle. C'est vraiment peut-être même encore meilleur que à chaque fois que Siege. Enfin quoique c'est différent en fait.
Ouais, c'est
Mais
vraiment différent.
c'est un bon complément.
Bref, bah, un très bon mag encore une fois.
Ouais.
C'est vraiment le mag du mois et pour une fois, l'event est réellement, réellement intéressant.
Ah toi tu dis que c'est carrément le Mac du mois.
Bah, le mag du mois en ce qui concerne tout ce qui concerne Siege en tout cas.
Oui, mais en fait, le truc, c'est que bon, comme d'habitude, hein, c'est assez fin et assez court pour un truc à 4 euros, mais en même temps, on aurait pu avoir deux séries pas terribles, et au final, c'est plus agréable que Secret Invasion, enfin, à mon
Bah,
sens.
en fait, quand je regarde la liste de ce que j'ai lu ce mois-ci, c'est peut-être celui que j'ai lu avec le plus de plaisir. Mais en même temps, c'était le plus court, donc est-ce aussi pour ça? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est celui qui m'a le plus plu, je pense. Donc,
D'accord, bah, en tout cas, oui, non, c'est vrai que c'était pas mal. Je suis assez accroché à Siege, qui se termine, rappelons-le, le mois prochain, puisque ça ne durait que 4 mois, et c'est plutôt pas mal d'ailleurs de faire ça. Je pense que c'est le bon timing.
Ouais, 4 ou 6 parties max, quoi. Il faudrait pas que ça aille plus loin. Enfin bon, je dis ça, mais Black Ops Night est excellent, il en dure 8. Donc,
Bah oui, enfin, Black Ops Night, pour le moment, je viens de le commencer, donc je vais réserver mon jugement. En tout cas, le début, effectivement, est très très bon.
Allez, on va passer à la suite. Marvel Icons numéro 68. Le Mac commence avec New Avengers numéro 63, scénario de Brian Michael Bendis, dessin de Mike McCone, dessin et ancrage d'ailleurs. Et bah donc là, c'est la première partie qui fait réellement partie de Siege.
Oui, enfin.
Que ça fait 2 mois qu'on nous dit que ça fait partie de Siege.
C'est vrai.
Et, mais et donc bah là, c'est des gros combats sur Asgard.
Oh, mais pas que.
Avec
même c'est accessoire les combats.
Bah c'est en fait la moitié de l'épisode sont des combats des New Avengers avec Cap en plus, et puis l'autre moitié ce sont des flashbacks de deux personnes qui sont impliquées dans ces combats, Luke Cage et Bobby Morse, donc Mockingbird.
Bobby le Morse. L'ami de c'est de Bob Éponge, bien sûr.
De Bibi Fock, moi.
De Bibi Fock aussi, oui.
Mais bon, chacun sa référence, hein.
Voilà. Non, mais t'as raison. T'as raison. C'est quand même mieux Bibi Fock.
Voilà. Et donc, on voit des flashbacks principalement sur leur vie amoureuse et le pourquoi. Et c'est ça qui, je trouve, est assez intéressant, ces flashbacks, parce que de prime abord, on se dit, bon, des flashbacks, voilà, c'est un peu chiant, quoi. C'est pas vraiment, vraiment Siege. En fait, ça montre à quel point ils ont besoin, que soit Luke Cage ou Bobby Morse, de gagner cette guerre contre Osborn. Parce que pour Luke Cage, d'une part, ça lui permettra de vivre enfin au grand jour, sans devoir se cacher constamment maintenant qu'il a un enfant. Et puis pour Bobby Morse, ça lui donnera une seconde chance avec Hawkeye et repartir à zéro réellement.
Ouais, je me suis fait prodigieusement chier à la lecture de cet épisode, surtout pour les scènes de flashback, et surtout parce que malgré tout, Luke Cage, sa vie avec Jessica Jones ne m'intéresse décidément absolument pas. Et Bobby Morse, depuis qu'elle est revenue, je la trouve parfaitement inutile. Donc idem, voilà. Malheureusement, c'est pas les deux personnages qui m'intéressent dans cette équipe. Et là, ouais, les scènes toujours, on a une sempiterne scène avec le bébé.
Je me doutais que.
À
la lecture, je me suis dit, oh, Benny va se faire chier.
Je me dis, Osborn, il aurait dû vraiment shooter dans le bébé comme il sait si bien le faire, le balancer du haut d'un pont, je sais pas, enfin s'amuser avec, quoi. Voilà.
Que tu es cruel.
Bah oui, ouais, mais en même temps, ça ne reste que de la bande dessinée, monsieur. Donc, on peut tout faire en bande dessinée, ce n'est pas grave.
Oui, après tout, pourquoi pas.
Mais en tout cas, j'ai trouvé l'épisode très moyen. Mais il y a un truc sympa, alors je sais plus si dans celui-là, à un moment donné, on voit Captain America et le Captain America Bucky, donc l'original et le second, on va dire.
Le clone
Bucky, quoi, Cap Bucky. Qui affronte, je crois, le maître de corvée, Taskmaster, et eh bien on revoit sous un autre angle ensuite cette même scène avec les mêmes répliques dans l'épisode. Alors ça doit être dans l'épisode de Initiative, je crois.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais alors est-ce que c'est dans celui-là? Est-ce que c'est dans New Avengers qu'on voit cette scène avec les
quatre? Oui, je crois que c'est New Avengers.
Parce qu'il me semble que c'était Immonen au dessin, en fait, de mémoire. Mais j'ai trouvé ça très 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 bien fait.
Immonen n'est pas là du tout ce mois-ci, donc.
Ah oui, donc c'était pas.
C'était Mac Mycone, hein, sur les.
C'était Mycone. En tout cas, j'ai bien aimé d'ailleurs les dessins de Mycone. Précisons-le, graphiquement, j'ai bien accroché. Je sais pas si c'est ton cas, mais.
Oh oui, j'ai trouvé ça sympa, ouais.
Et alors donc, je disais donc que ça arrive qu'on ait des scènes, tu vois, dans différents magazines, qu'on voit sous un angle différent, mais qu'on ait en plus les mêmes dialogues, mot pour mot. Là, j'ai trouvé ça super bien fait.
Il y a des fois, c'est vrai que ça donne un petit côté de rappel l'un à l'autre, quoi.
Et en fait, là, l'éditeur, alors je sais pas qui s'est chargé des séries Siege, a bien fait son boulot, parce que c'est vraiment super bien fait. Je trouvais que tout était raccord, ce qui est très rare. Ouais. Enfin, ce qui est rare, dernièrement.
Pour une fois, non, mais l'event est plutôt pas mal géré, quoi. Donc, c'est bien. Chez Marvel, en tout cas, c'est bien.
Et ce qui prouve que vaut mieux faire court et bien qu'un truc long avec beaucoup de choses qui ne sont pas raccord, au final. Bref.
Ouais, enfin, bon, je continue de pester sur les deux premiers soi-disant tie-in de New Avengers qui n'en sont pas.
Hein. Exactement. Non, mais moi aussi. De toute façon, je suis le premier à pester sur New Avengers, donc je vais garder ma place de pestiféré.
Je ne rajouterai qu'une seule chose.
Rien.
Rappelez-vous de la réplique de ce que Luke Cage a dit qu'il voulait faire une fois que tout serait terminé, et on en reparlera d'ici 2 ou 3 mois.
Je m'en rappelle plus, si tu peux, tu me la rappeler.
Je la rappellerai hors antenne.
D'accord. Donc on passe à la suite avec
Fantastic Four numéro 573, Jonathan Hickman au scénario, Neil Edwards au dessin, Andrew Curry à l'ancrage. Et donc, comme annoncé précédemment, Ben, Johnny ainsi que Franklin et Valeria vont en voyage sur New World. New World qui était la planète qu'avait amené Mark Millar dans son run.
Et j'avais complètement oublié que New World c'était ça en fait. Je pensais à un truc qu'ils avaient découvert depuis longtemps, mais en fait non. C'est un truc qui date tout récemment du run de Mark Millar, et je trouve ça absolument formidable. Peut-être que le mot est un peu...
C'est une très bonne idée, oui. Ouais.
Mais j'ai trouvé que c'était un très bon choix de Hickman de revenir là-dessus et de réutiliser à bon escient quelque chose qu'a fait le précédent, qu'a mis en place le précédent scénariste sur la série.
Alors, bon escient, moi je dirais oui, vu la fin.
Oui.
Voilà, ça m'a fait chier, donc voilà. Mais non, l'épisode est très bien, hein. C'est juste l'idée qui partait bien et puis finalement qui sert à rien. Donc,
Moi j'ai bien aimé le côté ils reviennent, c'est l'apocalypse.
Oui, puisque en fait ce qui s'est passé, c'est que le soleil de New World a explosé, est devenu un trou noir, et donc il y a une distorsion temporelle qui fait que ils pensaient être partis depuis 2 semaines, en tout cas les Fantastic Four n'étaient pas revenus depuis 2 semaines sur cette planète, et il s'est passé en réalité 8 ans.
Et en 8 ans, il peut s'en passer des choses. Et on voit à quel point dans cet épisode... Non, moi j'ai trouvé ça intéressant, il y a des surprises, il y a des rebondissements, il y a des personnages qui ont changé...
Qui ont sacrément changé.
Et au fait, en 22 pages, puisque finalement c'est un one-shot, c'est une histoire...
Je m'attendais à ce que ce soit un truc en deux parties, et en fait non, c'est un truc en une seule partie.
Oui, alors on peut dire que c'est effectivement un peu vite expédié sur la fin, quand même.
Ouais, mais c'est tout à fait dans l'esprit des Avengers des années 80, quoi.
Ouais, mais en même temps...
Ils faisaient des petits trips dans la zone négative, ou ce genre de choses.
Mais c'est... Ou des Fantastic Four, peut-être, que tu voulais dire, d'ailleurs.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit Avengers, comme d'habitude.
Ah, mais je suis perturbé par cet épisode qu'on vient de dire, justement.
Ouais, voilà. Donc, mais en tout cas, franchement, très très bon épisode, que j'ai limite préféré au premier arc de Dickman, assez étonnamment, d'ailleurs.
Ah, j'ai... Personnellement préféré le premier arc, mais après...
J'aime bien avoir petites histoires comme ça de temps en temps, qui soient pas à suivre, quoi, parce que c'est à chaque fois faut se remettre aussi dans le contexte, un mois après, on se souvient pas forcément des détails, et là c'est vachement bien, parce qu'on
avoir une histoire en one-shot, ouais, voilà, c'est ça, un épisode, ce qu'on appelle généralement des épisodes fill-in, et c'est le cas, puisque c'est pas des Gildersham au dessin, cette fois-ci c'est Neil Edwards, mais un épisode fill-in, mais qui est intéressant, et ça aussi c'est encore très années 70-80.
Bah oui, voilà, faut pas oublier qu'avant c'était la norme.
Ras-le-bol de cette écriture en arc aussi, constamment.
Bah ouais, ça fait du bien d'avoir... Imagine-toi une série où à chaque fois ce serait des épisodes uniques comme ça, moi je serais quand même client, parce que c'est vachement pratique. En plus tu peux rater des numéros et ne pas être largué totalement.
Je te conseille Brave and the Bold chez DCS.
Bon, écoute. Merci.
C'est chaque épisode des histoires différentes.
Conseille-le aussi aux auditeurs, puisque
quand je te conseille, pour
les lecteurs de VO.
Bah, les deux premiers TPV sont sortis en français, et puis ils ont arrêté, puisque ça n'avait pas un grand succès.
Ah oui, c'est vrai, oui. Ils sont sortis.
À l'époque, écrit chez Panini, par Mark Waid, et maintenant sur la série aux États-Unis, c'est JMS.
Ouais. Donc ça ne peut être que bon.
Non. Vous en avez eu un épisode dans le dernier Comic Box, le numéro 67, puisque le
dernier
est sorti.
Ah oui, avec
Dr. Fate et Green Lantern.
Dr. Fate, oui.
Voilà. Bref, donc très bon épisode. On va passer à la suite, le Iron Man numéro 22. Scénario toujours de Matt Fraction et dessin toujours de Salvador Larroca. Troisième partie de Stark Disassembled. Et c'est une partie où il se passe des choses, mais en fait il se passe rien.
Attends, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, on le sait. Là je fais pas une grosse révélation, un jour dans l'univers Marvel va y avoir un truc avec des espèces de tripodes, puisque on l'a vu dans la fin de Captain America Reborn. Et là,
je vous conseille
on
de vous
revoit...
rapporter un article qu'a écrit Kiwi Kid sur Cap Chronicles pour en savoir un peu plus.
Oui, mais par contre attention, si vous voulez absolument pas savoir ce qui va se passer en VO, voilà, vos risques et périls, puisque c'est quand même de la VO, ça annonce quand même des choses que vous n'avez pas forcément vu encore.
Il est pas trop trop spoilerisant quand même.
Non, mais voilà. Bon. Toujours est-il que on sait qu'un jour ces tripodes vont débarquer, et là de les retrouver dans Iron Man, c'est quand même intéressant. D'autant que il semblerait, alors c'est ça qui est étonnant, c'est Captain America les voit, et là on a l'impression que les parents de Tony Stark savent un petit peu ce que sont ces créatures. Voilà, est-ce qu'il y a un lien entre les parents de Tony et ses créatures? Est-ce que ils les ont rencontrés peut-être de leur vivant? Je sais pas. En tout cas, c'est assez intriguant, je trouve.
Ouais, mais il y a bien que ça dans l'épisode. Hein.
Ah oui, non, on est d'accord. Ça traîne en longueur. Et puis alors, à la fin.
Ghost se révèle. Voilà, il commence à frapper puisque Tony est dans le réside en fait à l'hôtel où réside Don Blake actuellement, donc en Oklahoma, à côté de Siege, hein, enfin à côté de la cité d'Asgard, la même ville. Donc Ghost frappe, se révèle, et puis donc ils essaient de protéger Tony qui est toujours dans le coma. L'éclair, enfin tout ce qu'ils ont préparé le mois dernier n'a pas suffi à le réanimer.
Il y a un truc que je comprends pas, c'est Tony est toujours dans le coma au moment où Ghost l'attaque. Cela dit, on voit Tony dans Siege, donc...
Et donc ça, c'est une erreur temporelle, c'est que le Fraction n'avait pas fini son run, enfin son arc.
Ouais.
Donc
ouais.
On le sait très bien qu'à la fin de son arc, Iron Man sera sur pied.
Sera sur pied.
Et aura réenfilé l'armure.
Oui, mais il y aura un autre problème, et seulement on peut pas encore en parler maintenant puisqu'on est en VF, donc je ne dirai rien pour le moment, mais il y aura un autre problème de continuité, et il sera bien plus gros, et on en parle plus tard. Cela dit, la fin aussi est super convenue. Alors, on a l'impression que c'est vraiment celui auquel on fait appel.
Ah voilà, ils font appel à un dernier consultant pour essayer de le sortir de la merde.
Un autre docteur, que le docteur Blake.
On va pas trop en révéler, même si déjà ça devient super évident. Hein.
Oui, c'est tellement tellement évident et tellement peu, enfin, c'est y a pas beaucoup de surprises quoi. C'est voilà, c'est un peu dommage parce que le début de l'arc était sympa et là oui, ça traîne pour y a pas de raison en fait.
Malheureusement, c'est un petit peu, je trouve, le syndrome de Fraction sur Iron Man. Il y a toujours une ou deux parties où il traîne en longueur. Le premier arc face au fils de Stain, c'était pareil. Alors World Most Wanted, on n'en parle pas.
Oui.
La peine. Donc voilà, cette partie-là traîne. Espérons que les prochaines iront un tout petit peu plus vite.
Écoute, je veux pas te décourager, mais par exemple, le dernier arc en anglais, sorti sur Invincible Iron Man, faisait quand même 8 parties.
Le problème, c'est que si c'est 8 parties intéressantes encore, ça va.
Et je sais pas. Ouais. J'ai peur qu'à chaque fois, il délaye énormément. Quoi.
Bref, donc un épisode sympa, mais où il se passe pas grand-chose. Quoi.
Non.
Donc, relativement dispensable. On finit le mag avec Captain America numéro 604, Ed Brubaker au scénario, Lou Cross au dessin, Butch Guys à l'ancrage. Et ben, cet épisode de Cap, j'ai bien aimé.
Oui.
C'est de l'action.
Voilà, de l'action, du...
Mais c'est Falcon. C'est con, en fait. Je suis en train de me dire que j'ai bien aimé l'épisode parce qu'on voit quasiment pas... Enfin, c'est pas parce que l'on voit quasiment pas Cap, mais hasard des choses, on voit quasiment pas Cap.
Alors, le problème, c'est toujours le même depuis un an et demi que je chronique sur Comic City, c'est que le problème, c'est que, voilà, on nous parle plus de Bucky que de Captain America, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a toujours pas consommé le fait de devenir Captain America.
C'est pas prêt de s'arranger, hein, honnêtement.
Non, parce qu'à chaque fois, on nous parle que de son passé. Au fait, cette série pourrait s'appeler Bucky.
Ouais, mais dans la suite, c'est pas prêt de s'arranger non plus, je te le dis.
D'accord. Mais c'est dommage, parce que voilà, c'est pas Captain America, quoi. Ce sera jamais Captain America, puisqu'on ne fait référence à lui qu'à travers son passé de Winter Soldier, de Bucky, donc voilà. Par contre, oui, l'histoire avance bien, il y a de l'action, c'est vraiment du Brubaker sympathique à nouveau.
Ouais. Une action non-stop, on est vraiment pris dedans, et ça se passe à bord d'un train, ça va vite, et justement, même dans la narration, ça va vite, et c'est bien.
Ça m'a fait penser à du 24 heures chrono, donc la série avec c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a un plan, enfin le grand méchant de l'épisode a un plan, mais en même temps c'est pour cacher autre chose de plus énorme encore. Donc c'est assez drôle, quoi. J'ai bien aimé.
Et puis Bucky est forcé de faire un choix assez lourd pour lui, c'est-à-dire réenfiler son ancien costume. Ou Falcon mourra.
Oui, et en plus il est obligé d'enfiler son ancien costume, donc comme quoi à chaque fois on le ramène en tant que Bucky.
C'est l'insulte suprême pour lui qui a évolué au rôle de Cap quand même.
Oui, enfin.
Et puis surtout d'être en plus le sidekick du Cap des années 50 qui est une pourriture.
Qui est une pourriture. Et d'ailleurs qui était devenu le sidekick du Cap des années 50, justement, le Bucky des années 50.
Il est mort.
C'est pas celui qui s'est fait flinguer par le Winter Soldier, justement?
C'est possible.
Qui jouait le rôle de Nomad? C'est compliqué maintenant. C'est compliqué parce qu'il y en a assez. Voilà, les transmissions de costumes. Les
Les
oui les
passations.
passations oui les passations de costumes sont font que voilà, ça rend les choses à chaque fois très compliquées. Surtout qu'ils ont la même tête.
Donc, moi, j'ai trouvé un épisode de Cap assez intéressant, donc c'est plutôt cool.
Oui, non mais ouais. Bah ça clôture assez bien ce magazine. Alors moi je dirais que c'est moyen parce que il y a deux choses que j'ai bien aimées, Fantastic Four et Captain America, mais deux choses que j'ai trouvées moyennes, Iron Man et New Avengers. Voilà.
Moi, j'ai juste trouvé Iron Man assez moyen, donc voilà, c'est pour ça que pour moi, Icon, c'est peut-être le mag vengeur, entre guillemets, le plus intéressant selon moi, même s'il y a quand même Fantastic Four dans le lot. Bref, vous m'avez compris, j'espère.
Oui, non, mais de toute façon, on va voir par rapport à la suite aussi. Eh ben,
Bon, bah la
allons-y.
suite, c'est Marvel Heroes numéro 38. Le premier épisode, c'est le Thor numéro 608, Kieron Gillen au scénario, Billy Tan et Bat au dessin, accompagné de Rich Elson pour les parties un peu plus anciennes, différentes, je ne sais pas trop. Enfin voilà, il y a deux styles graphiques, Billy Tan et Bat d'un côté, Rich Elson de l'autre. Bon, grosso modo, c'est Volstagg versus Ragnarok.
Ah oh ouais, alors là, par contre, on l'a pas chroniqué le mois dernier d'ailleurs, le Marvel Heroes. Donc retour encore une fois de Ragnarok. À chaque fois, on espère qu'il est bel et bien mort et il revient à chaque fois.
Ben c'est Ragnarok, hein. La fin d'Asgard, il était logique qu'il soit là. Enfin,
Ouais, en
ça.
même temps, c'est qu'un clone à la con de Thor et on ne l'a vu que trop de fois et à chaque fois, c'est chiant. Sauf que là, bon, comme tu dis, il y a Volstagg, donc c'est assez drôle.
Bah, je préfère qu'on parle de Ragnarok comme ça, dans cet épisode-là, que le Ragnarok de Dark Wolverine du mois dernier.
Le Ragnarok du...
Tu sais, avec les trois sorcières, là, et compagnie.
Ah
Et des
oui,
cabines de
d'accord,
marché. Bref,
oui.
on en reparlera tout à l'heure.
Oui.
De l'autre côté, on a Tyr qui organise les défenses.
Tire
Voilà.
l'arigot.
Et puis, oh non, c'est nul. Au secours. Sauvez-moi, pitié, sauvez-moi. Et Kendra, qui, je crois que c'est son nom, hein, qui va prévenir les parents de Billy, donc le mec avec qui elle était, comme quoi ils sont morts.
Exactement. Et comme quoi il est mort, oui. Comme quoi Billy est mort.
Oui,
Et...
il est mort. Pas ils sont morts, pas ses parents.
Oui, voilà. Et effectivement, et c'est là où il y a un changement, je crois, graphique, en fait.
Non, en fait, c'est sur les parties avec Tyr qu'il y a le changement graphique.
Ah, d'accord.
Billy Tan et Bat font les parties Volstagg et Rich Elson fait les parties Tyr. Peut-être celle sur les parents aussi, mais en tout cas, il fait les parties Tyr, ça c'est sûr.
D'accord. Eh bien,
Les
que
parties
dire?
tirent, ça fait une belle répétition.
Oui, parti tir. Donc, par
Nous on
qui?
est.
Parti tir. Voilà.
Ah oh, cet enchaînement mauvais. Comme quoi on n'a pas grand-chose à dire sur l'épisode. Bon, l'épisode est sympa, quoi. Non mais
J'arrive.
non, c'est un très bon, c'est un bon épisode, quoi. Il y a
Oui.
toujours cette chute d'Asgard à la fin. Il y a voilà, sauf que cette fois-ci, elle a des conséquences.
Ah oui, la chute d'Asgard, elle fait mal à quelqu'un.
Voilà.
Elle en fait une tortiflette.
Oh là
C'est...
là! Oh la vache! Celle-ci, elle était énorme! Ah. Ah.
C'est Noël, c'est ton cadeau de Noël.
Je sais pas pourquoi Thor nous inspire sur les blagues.
Ouais, bah, en
Sais pas
même
si t'as
temps,
remarqué.
un nom qui s'y prête quand même pas mal.
Ouais. Donc
Il a
bah,
bien cherché.
bon épisode, hein.
On aurait tort de s'en priver, oui.
Pas grand-chose. Oh non! Ah.
Bon.
Pitié, pitié. Gardons pour la suite.
Ouais.
Pas grand chose à dire de plus, hein. C'est un bon épisode. Il y a de la baston, il y a des moments de réflexion. Voilà, Kieron Gillen
Oui,
tient bien les
il y a des moments
persos.
émouvants avec Kendra. Hein.
J'espère que c'est bien Kendra son nom, que je suis pas en train de t'induire en erreur.
C'est peut-être Kendra ou Keldra.
Bon,
Moi, je dirais Kendra.
la meuf qui se tape un humain, quoi. Voilà.
Oui, non, enfin, c'est elle. Hein. On parle bien de la même, de toute façon.
Ouais.
Voilà, donc, bah, écoute, moi, j'ai quand même hâte de lire la suite.
Ouais. Bah, franchement, je continue d'être très surpris par la tenue de Kieron Gillen.
Oui, qui arrive à être très drôle, comme l'était Straczynski, par exemple, quand il écrit Volstagg, c'est toujours aussi drôle. On
C'est
a même
différent.
l'impression, ça nous fait oublier que Straczynski n'est plus là parfois.
C'est quand même différent, mais ça reste bon et le mec s'en sort à merveille. Alors que c'était quand même pas facile parce que le run de Straczynski sur Thor est quand même excellent.
Voilà, c'est toujours très difficile de prendre la suite d'un grand auteur, et là, il s'en tire à merveille. Félicitations à lui, et passons à la suite, puisqu'on va pas passer non
Bon,
plus
on n'a
3
pas
heures
grand-chose à
sur
dire.
Thor.
Mighty Avengers numéro 35, scénario de Dan Slott, dessin de Coy Pam, ancrage de Craig
Bon,
Young.
du coup, Steve Gueule, comment appuies-toi?
Ah, désolé.
Non, non, je plaisante.
Bon, bah, c'est le retour d'Ultron.
Oui, alors je sais plus du tout, parce que ça m'avait guère passionné, mais qu'en est-il de la sorcière rouge? Je pensais qu'ils allaient partir à la recherche de la sorcière rouge, et en fait, non.
Eh bien.
Non, non, en fait, voilà. Donc, c'est le retour d'Ultron dans cet épisode, comme tu le dis si
Alors,
bien.
on nous avait laissé le mois dernier sur un cliffhanger assez terrible, Pym qui demandait à Loki de rejoindre les Avengers.
Ah oui, c'est vrai. Bah oui, voilà, c'est ça. Et alors,
on débarque là, comme si il s'était passé, enfin, comme si on avait manqué un épisode. Mm-hmm. Et en fait, on nous raconte un petit peu ce qui s'est passé pendant ce temps. On apprend que les Mighty Avengers ont été dissous, que Hank Pym fait des expériences sur Jocasta, il est tout seul dans la maison avec Jarvis. Jarvis,
voilà. Ouais, alors ça, c'est assez malsain quand même. Hein. Comme diraient les gens qui l'observent, c'est oui, les gens de l'amibe, hein, puisque c'est l'amibe en français.
Ouais, la grande ma en anglais.
Voilà, l'amibe.
Grandpa.
Oui, et c'est assez malsain en fait, sa relation quand même avec Jocasta. Là, on a l'impression qu'il s'en sert vraiment comme d'une poupée gonflable, on va dire.
Non mais ouais, bon, l'épisode est assez moyen et la fin m'a laissé totalement perplexe. Honnêtement, j'ai pas compris la fin. Donc voilà.
Moi je le comprends comme un retour possible d'un personnage disparu. Mais
j'espère pas, parce que voilà, ça fait pas assez longtemps. Donc, ouais.
Oui, ou bien alors retour d'une autre manière. Mais alors, j'ai pas compris, il y a un truc que je n'ai vraiment pas compris au milieu de l'épisode, il nous parle de tout ce qu'on fait les Mighty Avengers, mmh. Et à un moment, il fait une allusion et je crois qu'ils sont allés dans l'espace.
Oui, alors oui, il disait qu'ils ont aidé pendant la guerre Skrull. Et rappelle-toi, c'est la guerre, oui, c'était contre les Skrulls. Enfin, je sais plus. Bah, c'était au moment où en fait, Quicksilver était retourné voir les Inhumains.
D'accord.
Et qu'il s'était fait passer pour un Skrull et dit qu'il avait volé les cristaux tératogènes, mais que c'était pas lui, c'était un Skrull, etc.
C'était ouais, avis, ouais, ce passage-là. Ça remonte déjà, donc ça n'a rien à voir avec War of Kings ou ce genre de choses.
Non, puis de toute façon, ça avait été que suggéré, ce passage. On voyait juste l'après-conflit, on ne voyait pas le conflit en lui-même.
Et c'est comme la disparition d'Hercule, elle a bien eu lieu, donc comme on l'avait chroniqué cet été, cette espèce de hors-série-là.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a un tel décalage entre ces épisodes-là qu'on a lu cet été et cet épisode que...
Et puisqu'on lit dans le Comics Weekly aussi, des fois, on commence à s'y perdre.
Ouais, exactement. Donc bon, un épisode un peu brouillon, j'ai trouvé, quand même.
Ouais, ouais, moi je l'ai trouvé un peu chiant, honnêtement.
Un peu brouillon, ça avance pas des masses, Ultron, on s'en fout un petit peu puisqu'il y a Sidj à côté, et on se dit, mais franchement, ils sont à côté de la plaque, en fait.
Ouais, mais Pym est à côté de la plaque, ouais, totalement.
Totalement.
Je pense que c'est ce que Dan Slott voulait nous faire comprendre avec cet épisode.
Mais je trouve que le mieux, la réplique qui résume tout, c'est la réplique de US Agent qui dit « On s'en fout de Hank Pym ».
Ouais, c'est ça.
Voilà. Enfin, c'est Amadeus Cho, je crois, qui lui dit ça, et oui. US Agent est tout à fait d'accord, il lui dit « Tu m'as convaincu lorsque tu as dit qu'on s'en foutait de Hank Pym ». Donc voilà, bah, c'est en gros c'est ça, c'est Hank Pym dans ses délires tout seul.
Moi, ouais, un épisode que j'ai trouvé relativement moyen.
Ouais, et d'ailleurs, qu'est-ce que va faire Ultron, où ça va mener, à mon avis, à pas grand-chose, puisque le titre va bientôt se terminer, en plus.
Oui, mais de toute façon, c'est un arc en deux parties, donc la suite est fin le mois prochain.
Ah oui, en plus, donc, ouais, en effet, ça va être un petit retour d'Ultron, il va juste avoir le temps de faire un coucou. Et...
Bon. Peut-être le reverra-t-on un peu plus tard, on ne sait-on jamais.
Oui, dans un truc qui s'appellera, on va pas le dire. Bon, mais...
La suite, c'est Avengers Initiative numéro 34, scénario de Christos Engage, dessin de Jorge Molina... Ancrage d'Andrew Hennessy. Donc bah là, par contre, c'est vraiment Taïna Siege. Hein. Avengers Resistance se trouve en plein combat sur Asgard. Et on a Hood qui demande à Night Thrasher de tuer Tigra pour ramener son frère.
Oui, la condition, c'est qu'il tue Tigra. Et dans ce cas-là, Hood prétend qu'il pourrait ramener son frère décédé, puisque son frère était, rappelle-le-moi...
Night Thrasher, premier du nom.
Voilà, c'est ça. Je cherchais en plus un autre terme.
Le fondateur des New Warriors, qui au début s'appelait Night Fighter.
Ah voilà, c'est pour ça, oui, d'accord, oui, je cherchais Night Fighter.
Mais qui a changé de nom au milieu de la série.
Oui.
Même pas.
Bah, c'est encore une fois pas mal du tout.
C'est pas mal du tout, puis surtout qu'on a quand même un retournement de situation qu'on attendait depuis assez longtemps, en fait, enfin, un retournement de situation. On a le retour d'un personnage... qu'on attendait depuis très longtemps, et le fait qu'il se démasque.
Oui, ce personnage qui effectivement, qui n'a toujours pas révélé sa vraie identité, et là, il le fait. Et non, c'est un grand moment, c'est peut-être le meilleur moment, d'ailleurs, de l'épisode.
Et puis, on a ce fameux combat Taskmaster Bucky.
Aussi. Ah oui, oui, voilà. Oui, voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui est très bien fait, puisque les répliques, en tout cas en VF, je sais pas si c'était pareil
mais
en VO.
Moi, j'ai pas le souvenir que ça avait été en VO, mais je les ai lus à... plusieurs jours de décalage, et quand j'ai plusieurs jours, c'est presque une semaine de décalage.
Exactement. Voilà. la même réplique, et d'ailleurs je comprenais pas trop quel était son sens dans Marvel Icons, et là dans Marvel Heroes elle prend tout son sens, enfin dans Initiative elle prend tout son sens.
Donc voilà, moi je l'avais pas vu, puis surtout qu'en plus je l'ai lu dans le sens inverse, c'est-à-dire j'ai lu d'abord Initiative,
Ah,
et
d'ailleurs voilà, en fait la réplique c'est il lui dit t'as pourtant l'habitude d'affronter des ennemis avec une tête de mort. Enfin c'est Bucky qui dit ça à Captain America, et voilà, et il lui dit exactement la même chose dans cet épisode-là, à propos de Taskmaster. Enfin, de toute façon,
Oui,
c'était
non.
déjà à propos de Taskmaster dans l'autre, mais voilà quoi. Et
Moi,
c'était vu sous un autre angle, et
je
c'était
l'avais
très
pas
bien
vu du
fait.
tout, ça. Je l'avais pas vu du tout. Bon, voilà, très bon épisode, hein, comme toujours.
Oui, puis enfin, Christos Engage arrive à rendre vraiment humain et attachant des personnages comme Taskmaster, ce qui est quand même un gros tour de force.
Et puis bon, on a aussi des passages sur Constructor, etc. Mais bon, voilà. Enfin, c'est vraiment un épisode, comme toujours, c'est très dense. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec un nombre de
Puis ça se
personnages
termine à
au
nouveau.
niveau du cast. Franchement, c'est un soap opéra, quoi. T'as 50 personnages principaux dans cette histoire, enfin dans cette série. C'est quand même
Ouais.
énorme.
Mais c'est ce qui fait le charme des meilleures séries, hein, quand même. C'est d'arriver comment dire, à mêler ce côté soap opéra avec le côté super-héroïque.
Mais ce qui est énorme, c'est qu'il arrive toujours à leur laisser une petite place à chacun et les faire avancer tous un petit peu. Donc ça c'est cool, c'est vraiment bien fait.
Et j'allais dire, ça se termine sur, bah, comme d'hab, hein, sur la
Ouais,
chute
sur
d'Asgard.
la chute d'Asgard, effectivement. On passe au dernier épisode de ce mag pour ce mois-ci, c'est Fall of the Hulks Alpha. Scénario de Jeff Parker, dessin de Paul Pelletier et ancrage de Vicente Cifuentes. C'est donc la première partie puisque l'épisode est coupé en deux. Il faisait plus d'une quarantaine de pages, une quarantaine de pages grosso modo en VO. Et donc il n'y avait pas la place, donc ils l'ont coupé en deux. On aura la fin le mois prochain. Bon alors ceux qui suivent Comics City depuis un petit moment savent que j'ai horreur de parler des épisodes coupés en deux. J'aime pas ça, je préfère avoir un épisode complet à mettre sous la dent plutôt qu'un épisode coupé en deux. Voilà, ça
Oui,
m'énerve.
non, c'est vrai que par rapport à l'œuvre originale,
Voilà. Un
ça se fait
arc,
pas.
déjà, je trouve que dans un arc, c'est chiant, mais bon, il y a toujours les cliffhangers, etc. Là, il n'y a pas de cliffhanger, puisque de toute façon, c'est pas prévu pour en avoir. Puisque l'épisode est coupé en deux. Il
Oui,
n'est
non,
pas
mais ça
complet.
rappelle la période Luc, Semi qui se permettait de
Voilà.
faire des coupes dans les épisodes, et là, on a l'impression vraiment que c'est ça, parce que,
Il manque
bah.
pas de pages, quoi, puisque ça sera publié le mois prochain, donc
Ouais.
voilà, mais bon, c'est toujours gênant, quoi. Puis on n'a
C'est
pas l'histoire
désagréable,
complète.
effectivement. Puisque c'était pas pensé à la base pour être coupé à ce moment-là, de toute façon.
Exactement. Voilà. Donc c'est le début de cet event qui va se passer chez Hulk, qui s'appelle Fall of the Hulks. On nous montre un groupe qui a œuvré dans l'ombre depuis tout un tas d'années, et qui s'appelle l'Intelligentsia, qui est un groupe qu'on pourrait
Super vilain.
qualifier d'anti-Illuminati en fait.
Oui, c'est l'antithèse des Illuminati, c'est le pendant des Illuminati, mais
Oui.
version evil.
Ouais, c'est ça.
Avec c'est les grands esprits des vilains, donc enfin on peut les
Voilà.
dire, on peut les nommer, donc on a le fantôme rouge.
Ouais, le Red Ghost. Le Wizard des Frightful Four. Alors désolé, j'ai pas les noms français.
Non,
Hein.
mais c'est ça,
Ça
hein,
doit être
le sorcier, tout simplement.
je sais plus comment il s'appelait. Ouais. Voilà, on a Egghead, en tout cas au départ.
Oui.
Le Penseur Fou, celui-là je le connais quand même. En tout cas en VF. Doom, et puis bien sûr, le leader.
Ouais, voilà, je pense qu'on n'oublie personne. Et voilà, et donc
Il y en
ça.
a un dont j'ai pas parlé, mais qui rejoint l'équipe plus tard, je vous laisserai découvrir ça dans le numéro.
D'accord. En tout cas, moi j'ai bien aimé ses origines. Ça m'a rappelé le fameux one shot où en fait Bendis avait introduit les Illuminati. Donc effectivement, c'est de la rétro continuité finalement.
Oh, de la retconne, hein.
Oui, c'est du retcon pur et dur, puisqu'on te
Parce qu'on les
dit que.
voit, ouais. Ils sont à l'origine de plusieurs événements.
Oui, alors c'est ça que j'ai bien aimé, surtout dans cet épisode. J'aime bien quand ça parle de vieux trucs et qu'on apprend des choses, etc., sur des anciens événements. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont un petit peu, par exemple, responsables des guerres secrètes avec le Beyonder.
Et là, ça, c'est plutôt pas mal fait. Puisque, voilà.
Oui, le costume noir, le fameux costume de Venom, en fait. Ils sont aussi un petit peu responsables du fait que Spider-Man soit tombé dessus.
Ça, je suis... Non, c'est pas exactement ça, en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Alors,
Enfin, oui et non. Enfin, c'est, disons qu'ils
on sait
l'ont, ils
pas, en
l'ont
fait.
ressuscité, ils l'ont ressuscité. C'est ce qui est dit dans l'épisode, c'est qu'ils l'ont ressuscité sur Terre. Donc
Ouais.
voilà, ensuite Spider-Man est tombé dessus, mais voilà, c'est-à-dire qu'il était mort, mais ils l'ont ressuscité, enfin ils l'ont ramené sur Terre et ressuscité.
Ouais.
Voilà. Bon, là je suis un peu moins friand de cette explication, mais autant pour le Beyonder, il n'y a pas de souci, autant pour le costume noir, c'est un peu plus.
OK.
Sachant qu'il l'avait déjà là-bas, sur la terre du Beyonder à l'époque.
Oui,
Parce qu'ils avaient été
ce
obligés de
sont
se
des.
refaire un costume sur
Oui,
place, puisque ils voulaient pas montrer
effectivement.
son identité aux autres et
Effectivement,
que son costume était
c'est
déchirant.
assez ambigu. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement par là, Jeff Parker. Mais enfin, globalement, voilà, il y a plein de références sympas à ce qui s'est passé dans l'univers Marvel depuis les débuts quasiment. Et j'ai trouvé ça assez bien fait. Et comme je te disais, ça m'a rappelé vraiment ce qu'avait fait Bendis sur les Illuminati. Voilà, je me dis, bon, bah pourquoi pas, hein? Pourquoi il n'y aurait pas effectivement une équipe de super-vilains qui soit le pendant des Illuminati, ce serait logique, à la rigueur.
Oui, bah oui. Bon, moi je voilà, bon, je réserve mon jugement pour la fin de l'épisode. Quand on l'aura, on verra. Pour le moment, il se passe pas grand chose au final, donc à voir si la fin de l'épisode nous apportera un lot de révélations un peu plus surprenantes ou pas.
Oh bah oui, mais enfin quand même, pour un épisode, finalement, on te révèle l'existence d'une équipe quand même qui a son importance.
Oui, bien sûr, mais
En
où
soi,
est-ce que ça va déboucher?
c'est. Ah oui,
Voilà.
bien sûr, ouais. Faut
Peut-être que
voir.
c'est qu'un pétard mouillé. Enfin, c'est le problème d'avoir un épisode simple, enfin d'avoir un épisode coupé en deux, pardon, et que voilà, on ne sait pas où ça va, quoi. Donc bon, on en reparle le mois prochain. On va passer à la suite des Max, sauf si tu as quelque chose à rajouter encore sur cet épisode, Benny.
Non, écoute, rien de particulier.
Bien, donc le dernier mag de la partie Avengers, c'est le Dark Reign numéro 15. On commence le mag avec Dark Avengers numéro 15, scénario de Brian Bendis et dessin de Mike Deodato. Donc là, c'est pourquoi Sentry a pété les plombs, tout simplement.
Oui, eh bien, écoute, moi j'ai trouvé cet épisode très intéressant parce que je ne m'y attendais pas du tout.
Il est très bien fait, ouais, il est très bien fait. Alors, bien sûr, il est taillé à Siege alors que c'est pas réellement le cas, encore une fois. Bendis nous fait des taillés à Siege façon Secret Invasion, en fait, avec ce qui s'est passé avant.
Bah, au fait, c'est simple. Depuis quelques numéros, la série Dark Avengers pourrait s'appeler Sentry, puisque
Ouais.
ça fait au moins 5-6 numéros que toute l'histoire est centrée sur Sentry.
Ouais, mais enfin finalement, il apparaît quasiment pas dans cet épisode. Très très peu, en tout
Oui,
cas.
mais enfin, je veux dire, c'est à propos de Sentry, quoi. On ne parle que de Sentry, finalement. Depuis 5-6 épisodes, c'est quand même incroyable. On voit que Sentry prend de plus en plus d'importance. Alors, est-ce que ce sera payant au final? À voir.
On verra pour la fin de Siege. En tout cas, l'épisode est très bien fait. On va en révéler le minimum parce que c'est très intéressant à lire, donc voilà.
Il est très bon, en tout cas, cet épisode. Là, c'est du bon Bendis, du bon New Avengers. Voilà, lapsus révélateur, du bon New Avengers.
Ah, tu aimes, hein,
Non,
petit
justement, c'est
coquin.
Dark Avengers, et c'est dommage parce que de toute façon, Dark Avengers est voué à disparaître. Ça c'est dit, de toute façon. C'est même pas du spoiler, c'est prévu. Voilà, bon, on peut déjà passer à l'épisode
Oui,
suivant.
l'épisode suivant, c'est le Thunderbolts numéro 141, Jeff Parker au scénario, Miguel Sepulveda de dessin et à l'ancrage, et donc Taina Siege là encore, où les Thunderbolts sont envoyés pour aller piquer en fait la lance d'Odin, qui a une arme hyper comment dire voilà, je trouve plus mes mots, qui en tout
Une
cas
lance
un ouais
qui permettrait d'être surpuissant, quoi.
Voilà, non mais c'est un super symbole en fait pour les Asgardiens, et le fait d'avoir Iron Patriot qui brandirait cette lance finirait d'anéantir le
D'achever
moral,
le moral des troupes.
voilà des Asgardiens, et donc ils doivent aller dérober cette lance de manière à la porter à Iron Patriot et assurer encore plus la victoire sur les Asgardiens. Bien évidemment, les choses vont pas se passer exactement comme prévu. Non
Non.
plus, l'équipe doit gérer avec la perte de deux de leurs membres. Edsman qui s'est pris une balle dans la tête dans le dernier épisode, cette
Oui.
fin sublime avec c'était Scourge, hein, je crois, qui avait été
Oui,
programmé et
exactement.
qui envoie qui met une balle dans la tête de Edsman.
Et
C'est
d'ailleurs, ils doivent composer avec leur nouveau chef d'équipe, Scourge, qui est complètement taré.
Ouais. Et puis bah Ghost qui est parti. Et qui se retrouve en fait en train d'essayer d'assassiner Tony Stark. Et là, le problème, c'est qu'on a un petit problème de continuité. On sait très bien qu'il ne va pas y arriver, puisqu'il est expédié et arrive sur Siege pendant cet épisode. Donc on comprend que voilà.
Oui, et aussi on se demande comment Tony Stark, encore une fois, peut arriver sur si je m'explique avant enfin comment Tony Stark peut arriver sur le champ de bataille avant que Asgard s'écroule, alors que là, comment dire, il est
On l'a pas
toujours dans
vu.
sa série, il est toujours KO, quoi.
Ouais, mais dans sa série, on n'a pas vu Asgard écrouler encore, donc voilà. Et on parle très très vaguement du problème de Siege. Hein. Je sais pas si t'as remarqué pendant l'épisode d'Iron Man.
On voit Ghost arriver, non?
Ouais, mais dans l'épisode d'Iron Man, on voit juste une télé qui dit qu'il vient de se passer le problème à Chicago. Tout juste. D'accord. Donc le Siege n'est pas encore lancé réellement. Mais bon, c'est un petit souci, quoi. Petit problème, ce qui nous spoil légèrement la suite de la série d'Iron Man qu'on verra le mois prochain et dans deux mois, puisque il reste encore deux parties.
Ouais. Et ce qui m'a fait marrer quand même dans cet épisode, c'est, tu vois, ils ont l'air de dire que Norman Osborn n'a pas l'air d'être au courant de ce qu'ils font réellement. Et au début, t'as Norman Osborn qui leur donne leur ordre de mission et qui leur dit « Oui, vous allez pouvoir réussir, de toute façon, je vous fais confiance, vous avez Hetman dans votre équipe, vous avez Ghost, etc. Ouais. » Et ce qui est énorme, c'est qu'on voit très bien que c'est un message enregistré longtemps à l'avance, quoi.
Ben oui, bien sûr. Mais de toute façon, il est toujours pas au courant. Ils l'ont caché à Norman que Hetman était mort.
Mais c'est ça qui est drôle, c'est que au fait, on se rend compte que Osborn leur file des missions, mais ils s'en fichent pas mal, au fait. Ils se serrent d'eux, vraiment, comme de larbin et...
Ce qu'on voit aussi, c'est quand même que Ghost est contre Osborn, malgré qu'il travaille pour lui, et bizarrement qu'il essaye de tuer Iron Man, mais il est contre Osborn, puisque c'est lui qui prévient les Mighty Avengers qu'il se passe quelque chose.
Ouais.
Donc voilà, le mec est ni dans un camp ni dans l'autre, il est vraiment difficile à placer.
Il joue en solo, quoi, c'est vraiment... Ouais. Donc en tout cas, très très bon épisode,
oui.
Et donc Jeff Parker, ça y est quoi, il est installé.
Bah, sur cette série, en tout cas, il a vraiment pris ses marques.
Donc voilà, ça y est quoi, c'est parti.
Donc bon épisode, bon, on attend la suite, hein, bien évidemment, le mois prochain.
La fin, encore une fois. Enfin, la fin de cette partie des Thunderbolts.
Oui, la fin de Siege en tout cas.
Oui.
Et on passe aux derniers épisodes du mag, les Secret Warriors numéro 14 et 15. Scénario de Jonathan Hickman, dessin et ancrage de Stefano Caselli. Et donc là, c'est la révélation ultime. Contessa travaillait en fait pour l'ennemi depuis le début.
Oui. Et
toutes ces années où elle était avec Nick Fury, elle était en fait au service de quelqu'un d'autre.
Du Léviathan, on peut le dire de toute façon.
Oui, oui.
Et on a surtout quelqu'un de l'Hydra qui se fait dessouder méchamment.
Ah oui, elle tue Viper.
Voilà, Viper meurt, mais...
Une balle dans la tête, hein, je crois.
Oui, enfin, en tout cas, oui, elle se fait flinguer, quoi, en bonne et due forme. Et il se passe pas mal de choses. Il y a aussi les conséquences du fait que Fury ne voulait plus de leur jeune recrue. Alors, par contre, je sais plus son nom.
C'était le docteur Druid, enfin le fils du docteur Druid, je crois.
Voilà. Donc, il s'est fait renvoyer chez lui, bien gentiment, par Fury. Et là, ils en débattent tous. Et ils sont tous, enfin, ils s'opposent tous à la décision de Fury de l'enlever de l'équipe. Et il y a surtout une espèce de d'idylle qui se met vraiment en place entre Daisy et GT. Bah voilà, de toute façon, vraiment là on va parler des deux parties, je pense, dans leur ensemble. Hein.
Alors on va pas trop révéler, mais je vais pas dire vraiment ce qui se passe, mais il y a quand même une scène qui est ultra choquante dans cet épisode. Il y a quelqu'un avec un poulpe sur la tête et ça me fait vomir.
Oui.
Ah mais oui. C'est quoi cette gueule, sérieux?
Et
c'est
quoi?
C'est affreux.
Dans l'édito, dans la
post-fusion.
La postface, il est dit que il se serait inspiré au fait du look que ce personnage avait dans Earth X.
Oui, mais c'est très laid. Je m'en fous qu'il puisse.
Non, c'est vrai que c'est très très moche.
Il peut s'inspirer de qui il veut, c'est affreux.
Surtout quand on voit le personnage avant et après.
Voilà.
C'est oui, au secours. J'espère que ça ne va pas durer, mais malheureusement, là, ça va être difficile d'en venir en arrière.
Un poulpe sur la tête, quoi. Un poulpe, sérieusement. Ça correspond même pas avec le nom en plus.
Qui couvre les yeux.
Ouais, mais ça correspond même pas avec le nom du personnage, donc c'est complètement crétin, quoi. Enfin bref. Là, ça bouge hein, quand même. Secret Warriors, autant les épisodes du mois dernier étaient un peu lents, je trouve. Là, cette fois-ci, ça a bien bougé.
Bah, tu nous as fait un vieux bruit.
Ouais.
Bon. Les épisodes du mois dernier, effectivement, on n'avait pas traité de la revue Dark Avengers non plus, parce que c'était un peu rouflant, quoi. C'est pas grand chose, mais là c'est vraiment pas mal.
Ouais, moi je reste un petit peu en retrait pour Secret Warriors parce que je suis pas sûr de là où ça va et ça me gêne.
Mais la série va s'arrêter aussi. Pas tout de suite.
Non, elle est prévue pour s'arrêter au numéro 25 ou 26 aux États-Unis. Donc,
dans une dizaine de mois, quoi, 9 mois.
Bah, pour les Français, ça va faire un an, quoi.
Là je crois qu'on est au 16e. Ouais, ça va être à peu près ça. Bah quoique là dernièrement ça va vite puisque nous publie deux épisodes
Ouais, mais
par
bon,
mois.
ils vont se calmer
Oui,
sur
ils vont se calmer,
ce
oui, je
plan.
pense.
Je pense qu'on va pas en avoir le mois prochain, ou peut-être le mois d'après. Le mois de février, on n'aura peut-être pas non plus. Je ne sais pas. Bien, donc bon, un mag relativement sympathique quand même.
Très 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 bien. Franchement, avec Siege, Icons, Heroes, Dark Reign, c'est vraiment les. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi, quand même, dans l'ensemble.
Donc on va finir cette quinzaine de Comicity sur le kiosque avec la partie X-Men. On va commencer avec le Astonishing X-Men numéro 67. Premier épisode, c'est le Astonishing X-Men volume 3 numéro 34. Le scénario est de Warren Ellis, les dessins de Phil Jimenez, l'ancrage d'Andy Lanning. Et dans cette partie, ça commence avec une joute verbale entre Beast et Cyclope. Où finalement Warren Ellis fait un petit peu une critique du personnage de Cyclope, en tout cas de ce qu'il est devenu dans la continuité propre.
Ouais, mais j'ai trouvé assez out of character cette discussion. Je sais pas, je reconnaissais pas tellement Beast, au fait.
Non, moi non plus. Moi non plus.
Même pas du tout. Je le
Il
voyais
le
pas du tout parler
rapproche, en
comme ça,
fait.
donc.
Il rapproche aussi Beast, du Beast actuel écrit par Matt Fraction, quoi, qui se désolidarise totalement de Cyclope et qui hésite pas à lui jeter en pleine figure ses échecs. Et en même temps, il essaie de faire une critique de Cyclope, enfin, de ce qui est devenu Cyclope au fil du temps. Je sais pas. Ça, c'est vrai que ça m'a paru un petit peu facile. Voilà.
Ouais, c'est
Et puis surtout la résolution de ce petit conflit entre deux, en fait, est aussi assez facile, en fait.
Ouais.
Après tout, ça peut être justifié par le fait qu'ils sont amis depuis des années, et que généralement, quand t'es ami avec quelqu'un depuis des années, que tu t'engueules un peu, tu te rabiboches très vite. Mais là, ça paraît trop trop vite, quoi. C'est, ça monte trop vite d'un coup, en fait, et ça redescend trop vite aussi d'un coup. Bon, c'est quand même sympathique de voir une petite critique de Scott, c'est toujours agréable.
Ouais, enfin voilà, mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu. Je suis pas rentré dedans, quoi. C'était un petit peu. Ça semblait un petit peu surfait, je sais
Honnêtement, moi,
pas.
c'est dans l'épisode en entier que je suis pas rentré dedans, hein.
Oui, non, mais voilà,
Puisque
exactement. Mais en fait,
ensuite, on a.
tous les épisodes de ce mag-là, de toute façon, on le verra au fur et à mesure, mais j'ai trouvé que c'était vraiment des épisodes bouche-trou, quoi, pour toutes ces séries. Donc là, grosso modo, sur Astonishing, à part ça, bah, de
Il
la
y a
baston, des gros monstres.
peut-être un épisode qui peut sauver le reste, mais après ça dépend des coups. Bon, le reste, oui, bah, on se retrouve face à un Sauron Brood zombie mutant. Bizarre. Voilà. Et
Bah, oui, voilà, enfin,
alors,
le
autant
problème,
le
c'est.
retour des Broods m'a fait rire que le retour de Sauron, pas du tout.
Ouais, non, puis en plus, faut attendre vraiment la fin de l'épisode pour entrevoir l'ennemi.
Et alors,
Alors.
là, par contre, je suis absolument, mais alors, absolument pas d'accord, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, j'espère que je me trompe, parce que si j'ai raison sur qui je pense que c'est, je vais pas le dire pour éviter les spoilers. Pour moi, c'est une idée de merde. Donc, voilà, je préfère être clair, c'est vraiment une idée pourrie. Déjà que c'est un personnage que je peux pas saquer, que c'est un méchant que je trouve pathétique et qui m'a fait. Voilà, j'y ai jamais cru depuis sa première apparition, et voilà, donc c'est pas maintenant que je vais commencer à y croire.
Ouais, bah, moi, je
Et
serais
c'est pas le Père Noël, même si c'est la saison.
moins
Donc
violent que
attention.
toi, mais ouais, si c'est celle qui fait des yaourts,
Non, mais non, on donne pas trop
non.
d'indices.
Ouais, enfin si c'est cette personne, ouais, enfin je sais pas, j'attends de voir, mais honnêtement, l'épisode ne sert à rien dans la mesure où il ne se passe rien, en
Non,
fait. C'est
non, c'est
vraiment
clair.
du
Puis,
remplissage.
les X-Men finissent par s'infiltrer dans la base secrète du fameux grand méchant. Et
Oui, c'est ce que
alors,
je dis, il se passe rien.
une base gigantesque, tu te demandes comment ça tient sous la terre, ce genre de choses. Mais enfin, c'est pas grave, c'est les
Oh,
X-Men.
ouais.
C'est, de toute façon, c'est à
D'ailleurs,
l'image du
ils
reste.
s'en moquent eux-mêmes. Ils disent c'est là où va apparaître un énorme vaisseau type. Alors, je sais plus s'il faut une référence à Star Trek ou je ne sais plus à quoi, mais.
Bah, pas en VO, en tout cas, j'aurais vu si.
Ouais, ou bien alors à la guerre des étoiles, oh, je sais plus. Bon, enfin, ils font une espèce de référence comme ça, l'air de dire tout est démesurément grand et voilà.
C'était une référence à James Bond, je crois, dans
Ah
la
oui, voilà,
VO.
c'est ça,
Dans la
oui, une
VO.
référence à James Bond, à la base d'un méchant type Dr. No, tu vois, un énorme truc qui sort, la base du spectre, qui sort de Terre, et, enfin voilà.
Ouais. Non, mais
C'est
enfin bon,
exactement ça.
voilà. C'est à l'image du reste de l'arc, hein. Tout est gigantesque, tout est démesuré. Donc,
Démesurément pas terrible.
Ah, pour cet épisode-là, en tout cas, oui. La suite, c'est le X-Force numéro 22. Donc toujours en plein décrochage, les scénaristes sont Kyle et Yost, voilà. Putain,
Voilà,
je
on va
vais
dire comme
jamais
ça.
y arriver, je vais jamais y arriver, je te jure. Ces deux-là, je vais jamais y arriver. Autant Dame Dame Det et Andy Lanning, j'ai aucun souci à reconnaître qui est qui. Alors ces deux-là, je peux pas. Et donc Leighton Crane au dessin. Donc bah déjà, je trouve que j'ai trouvé que c'était pas super régulier sur certaines pages. Il y a des pages, franchement, qui sont nettement en dessous. Peut-être
Qui
nous
sont un
a-t-il
peu
montré les
brouillons,
limites. Ouais.
un peu sombres, on voit pas trop qui fait quoi. Heureusement, alors il y a les noms des gens. Et mais ça, j'ai, enfin, franchement, cet épisode, c'est une énumération de baston. Machin face à truc, truc muche face à bidule chouette. Et puis allez, vas-y, je te refous une louche de machin chose face à un truc bidule. Au bout d'un moment.
Ouais.
Enfin.
Non. Il y a une info intéressante quand même qui est lâchée dans l'épisode.
Ah bon, d'accord.
C'est que malgré qu'il soit mort, le jour M a quand même réussi à supprimer les pouvoirs à des mutants déjà morts.
Oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la phrase est un peu compliquée comme ça. Mais oui, effectivement, elle a eu, le jour M a eu des conséquences sur des gens qui de toute façon étaient morts, ce qui est quand même extraordinaire.
C'est-à-dire qu'ils sont ressuscités, mais
Ils n'ont plus de pouvoir,
ils n'ont plus
oui.
de pouvoir.
Oui.
Donc voilà.
Donc ça voudrait dire que le jour M a toujours un effet à retardement, quoi.
Pas forcément, peut-être que même mort, enfin il y avait quand même leur cadavre et donc leur matériel génétique, et à cause du jour M, leur matériel génétique, enfin le côté mutant de leur matériel génétique a été supprimé.
Ouais, enfin, il y
Donc
en a
ça voudrait
certains qui
dire
étaient
qu'il y a eu.
morts vraiment depuis belle lurette, il ne restait plus qu'un squelette et encore, quoi. Enfin.
Oui, mais enfin dans les eaux, t'as quand même de l'ADN, quoi.
Oh, ne me prends pas comme ça avec ton cours de bio, Steve.
Oh, mais je vais te
Retourne,
prendre. J'ai eu peur que tu me dises retourne-toi et c'est moi qui te prends, mais.
retourne à ta review.
En tout cas, donc ça voudrait dire qu'il y a eu un peu plus de 198 mutants de sauvés au final. Bon, les autres étaient morts. C'est con, mais il y en a eu plus de 198 de sauvés. Voilà, bon, à part ça, on a le plan de Séléné, quoi. Et Eli Bard a merdé.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, mais
Ah, et puis, il y a Ran.
grosso
Il y a
modo,
Ran qui avance.
c'est
Ran.
encore. Oui.
T'as oublié ce qui arrive à Ran, quand même. Pour une
Oui.
fois qu'elle sert enfin un tout petit peu à l'histoire.
C'est vrai. Ouais,
Ou en
c'est.
fait, non, puisqu'on s'en fout.
Non,
Donc,
mais voilà. Oui.
ça
Non,
fait
mais.
tellement longtemps que ça nous fait chier qu'en fait, on en vient à s'en foutre quand il se passe quelque chose. C'est comme ça.
Ouais, non, mais le problème, c'est que. Voilà, Necrochat, les prémices de Necrochat étaient intéressantes, mais on a l'impression qu'ensuite les scénaristes n'avaient plus rien à dire.
Mais ouais, pour le moment, je suis un petit peu déçu, je dois avouer.
Franchement, d'habitude, X-Force, c'est bien, et justement, là, il a fallu que ça attendre Necrochat pour que ça devienne pas terrible.
Peut-être que ça repartira ensuite.
Oui, mais c'est dommage, parce que Necrochat, franchement, c'est un pétard mouillé, hein.
Bah, pour le moment, ouais, peut-être que la fin nous soufflera, mais j'y crois pas trop, parce que normalement, il nous reste qu'une partie, plus un spécial.
Ben, en même temps, ça ne manquera pas. Donc, voilà, non, c'était que de la grosse baston contre des gens ressuscités. Il n'y avait pas beaucoup de.
Bon bah il y a beaucoup de phases de dialogue de Séléné quand même, de monologue même, je dirais, de Séléné,
Ouais,
quoi.
mais enfin, il n'y a pas beaucoup de. Je sais pas, au début, tu vois, il y avait vraiment un truc intéressant avec les New Mutants. La psychologie des personnages était bien, bien amenée, mais là, voilà, de la baston. Bon. On va parler de New Mutants de toute façon tout à l'heure.
Ouais. On passe à la suite, le Dark Wolverine numéro 84. Daniel Way et Marjorie Liu au scénario, Giuseppe Camuncoli au dessin et Onofrio Catacchio à l'ancrage. C'est donc la dernière partie de Dark Wolverine sur Siege.
Et Giuseppe Camuncoli, donc vous pouvez toujours voir l'interview sur YouTube, interview réalisée durant le LCF, il était bon de le rappeler, interview en deux parties, plus, pour plus de bonheur.
Oh là là, ça fait vieille pub des années 50. Bref, donc c'est la fin de cet arc qui s'appelle Godlike, et bah Daken choisit la voie du héros.
Ah oui, d'accord, oui, je voyais pas ce que tu voulais dire par là. Oui, bah oui, c'est encore un épisode très 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 chiant quand même.
Oui, bah on essaye de nous montrer de nous expliquer un peu plus la psychologie pardon de Daken. Et je sais pas, ça tombe à l'eau, quoi. Je me désintéresse, mais alors totalement de cette série. Et honnêtement, si elle n'était pas là-dedans, je la lirais pas.
Bah, on aurait dû demander à Giuseppe justement s'il aurait pas préféré dessiner. Dark Wolverine, enfin Daken en train de vraiment participer à la bataille, plutôt que d'être. Il est vraiment mis à part, je trouve ça dommage.
Il y participe à la bataille, mais à chaque fois, on nous montre que non.
Oui, mais
C'est
enfin
con.
voilà, il est vraiment mis à part avec cette histoire avec les trois sœurs, et c'est un peu dommage, je pense qu'il aurait pu réaliser des superbes planches où vraiment. Bah il y avait au début quand il attaque Norman Osborn, en fait c'est une hallucination, mais ça c'était pas mal. Graphiquement, bah, la première partie, quoi. La première partie était
Même
sympa.
là, il y a eu des bons passages quand il charcute tout le monde, etc. Enfin, mais voilà, c'est le
Enfin,
problème, c'est que
je
avec
pense
les
qu'il
ficelles
pouvait.
scénaristiques, l'épisode ne sert encore à rien, quoi.
Oui, voilà. Je pense qu'il pouvait vraiment s'amuser sur la première partie, mais après, là, je trouve que le personnage est trop mis de côté par rapport à ce qui se passe. Et oui, on s'emmerde dans cet épisode, quoi.
Ben on passe au dernier épisode, hein, du coup. C'est le câble numéro 19 des scénarios de Dwayne Swarzynski, dessin de Gabriel Guzman, ancrage de Mario Taibo. Les Broods ont envahi le vaisseau où Cable et Bishop étaient. Bishop veut toujours faire exploser le vaisseau, mais Emile parvient à l'en empêcher en disant que vu qu'il n'y a pas les yeux
Émile.
sur Hope, peut-être qu'elle a déjà quitté le vaisseau. Et voilà. Et donc Cable et Bishop affrontent les Broods. Ils sont obligés de faire une pseudo-trêve.
Et là, encore une fois, épisode fill-in, parce que bataille contre les Broods, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et puis alors la fin, là, voilà, avec une scène des décès, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon.
Petite dédicace donc à Jean-Lô.
D'accord. Bon, bah c'est passé. Bref, du coup, moi j'attends de voir la fin de l'arc, hein, pour me prononcer. Je sais pas. Comme je dis, de toute façon, Cable, là, je comprends pas trop où ça va. Dans l'espace, mais à part ça.
Ça va nulle part. C'est toujours un petit peu la poursuite, la course-poursuite entre Cable et Bishop, mais sauf que là, à force, on sait plus
Toute
trop quoi
façon,
faire et
un épisode dans le mois prochain, puis ensuite un numéro spécial qui clôturera la série avant Second Coming qui commence en
En
février,
tout cas,
non,
je me demande comment
février.
Bishop va finir la série. J'ai peur pour lui. Hein.
Ouais, c'est mal parti.
Il est mal barré.
Un asto, un petit asto, quoi.
Petit asto ce mois-ci. C'est dommage parce que d'habitude c'était vraiment l'une de mes revues préférées. Mais il faut dire que depuis qu'ils ont supprimé X-Factor de la revue, qui reviendra l'année prochaine, mais
En
depuis
Big
qu'ils l'ont
Book,
supprimé, c'est vrai que le magazine est un peu en
X-Factor.
baisse.
Vous aurez le Big Book X-Factor, donc voilà. Ce sera à prendre. Bref, allez, on passe au dernier mag de cette quinzaine. C'est le X-Men numéro 167. On commence avec le Uncanny X-Men 522, scénario de Matt Fraction, dessin de Wiles Portacio, qui revient faire un coucou sur Uncanny X-Men, et Ed Tadeo à l'ancrage. Donc, eh bien, c'est le retour de Kitty Pride. C'est plus un spoiler parce qu'on nous l'avait annoncé le mois dernier sur le cliffhanger. Voilà. Mais va-t-elle réussir à revenir sur Terre? Parce que c'était ça que Magneto était parti chercher. C'était ça qu'il attirait avec ses pouvoirs. Et c'était pour ça qu'il était constipé depuis plusieurs jours.
Voilà, c'était ça en fait, ça avait du mal à sortir et
Bah tu
bah là
m'étonnes,
ça sort.
t'as vu la taille du suppôt? Tu m'étonnes que ça ait du mal à sortir.
J'avais fait la blague la dernière fois, on va pas recycler non plus un suppositoire.
Mais c'est pas grave, on recycle. Et Comic City, le premier podcast écolo.
Qui recycle les suppôts.
J'allais dire les vannes, parce que les suppôts c'est quand même dégueu. On se le prête, c'est ça? Ah, t'es crade. Donc,
Oui.
il y a quand même une évolution peut-être du pouvoir de Magneto, puisque au-delà du simple magnétisme, il parvient aussi à avoir un côté assez télépathe finalement, à transmettre des émotions. Enfin, Emma explique ça dans l'épisode, et c'est assez étrange. Je me demande s'il n'y a pas une certaine évolution de son pouvoir.
Ouais, non, mais enfin voilà, grosso modo, un épisode sympa, mais
Avec un goût de fin du monde, et puis en fait, non.
non, en
Mais
fait,
voilà, on
non,
ne sait
enfin
pas.
voilà, non, mais enfin, il y a surtout un petit twist intéressant à la fin. Et
Même deux, moi je dirais, puisqu'on a aussi la réaction de Scott alors que tout le monde est heureux, lui non.
ouais.
Bon, l'autre, je vais pas en parler, hein, mais voilà. Pourquoi lui est-il le seul à être malheureux de ce retour? Parce que c'est pas lui qui a réussi à la ramener, peut-être? Je sais pas.
Oui, non, enfin voilà. Non, mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions. C'est un épisode somme toute assez sympathique,
Ah oui,
avec le
moi j'ai
retour d'un
trouvé que
personnage
c'était.
important, mais
Et puis le retour d'un dessinateur aussi qui a marqué son époque, hein, sur Uncanny X-Men.
ouais, mais par contre, voilà, comme tu dis, il a marqué son époque, mais maintenant,
Ben moi je trouve
je suis
que.
pas bluffé particulièrement par ses dessins. Enfin, encore là, ça va, mais ça dépend. Après.
Ah, je trouve qu'il a vachement amélioré son style comparé au dernier truc que j'avais vu de lui. Il a fait de gros efforts et moi j'ai trouvé ça très très beau. Mais en même temps, j'ai toujours bien aimé le style de Wiles Portacio, donc.
Ouais, enfin bon, voilà, l'épisode peut-être le plus sympathique du mag, justement, malheureusement. Alors après, la suite, on va y venir.
Voilà, la suite, c'est le X-Men Legacy numéro 232, dernière partie, non pardon, avant-dernière partie de Necrochat pour Legacy. Donc, les héros sont en mauvaise posture, puisque face à Proteus, et Proteus a changé dans son pouvoir. D'ailleurs, il a une petite évolution de pouvoir. Il est capable de prendre contrôle de plusieurs corps à la fois, et donc ça change la donne.
Ça change pas mal les choses et du coup il est intéressant de l'opposer à Rogue, Malicia en français.
Depuis qu'elle aussi a eu son évolution de pouvoir.
Exactement. Et donc
Moi,
bon.
j'ai particulièrement aimé la construction de l'épisode où on commence, on pige que dalle, on se dit c'est pareil, là j'ai raté un épisode, quoi, je me suis trompé, c'est pas possible, j'ai pas lu le bon. Et en fait, on nous explique par des flashbacks, petit à petit, ce qui s'est passé, sans jamais nous préciser une demi-heure avant, une heure auparavant, etc. C'est à toi, quand tu lis l'épisode, de comprendre que c'est un flashback. Et enfin, tu vois, je me suis dit, enfin, on nous prend pas pour des débiles mentaux.
Ben,
Et
écoute,
ça m'a fait super plaisir.
moi, franchement, cet épisode, enfin, on peut pas dire que j'ai beaucoup apprécié, puisque je t'avoue que je l'ai lu il y a une semaine, un peu plus d'une semaine peut-être maintenant, et je ne m'en souviens absolument pas. Pourtant, je sais que je l'ai lu, mais je ne m'en souviens quasiment pas, et du coup, voilà, quoi, ça m'a pas marqué. À mon avis, c'est un petit peu le syndrome épisode baston.
J'ai totalement oublié de préciser d'ailleurs les crédits. Au scénario, on retrouve Mike Kéré, au dessin Clayman et à l'ancrage Danny Mickey, Alan Martinez. Voilà, c'était juste pour préciser, pour être complet.
D'accord, oui, non, mais bien sûr, t'as bien fait. Mais tout ça pour dire que, voilà, tout ce qui fait partie de Necrochat, là, ça me passe au-dessus. Je m'attendais à pas grand-chose, et finalement, bah, j'ai pas grand-chose, donc au moins c'est cohérent.
Allez, on va continuer sur Necrochat avec New Mutants numéro 8, dernière partie pour New Mutants dans Necrochat. Zeb Wells au scénario, Diogenes Nivis au dessin et à l'ancrage. Et donc c'est une fin un petit peu simple, je trouve, dans l'ensemble.
Ouais. Oui, une fin un petit peu convenue, et en plus, il faudra qu'on m'explique comment, pourquoi ça fonctionnerait comme ça. Je sais pas.
Grâce à ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant, en fait.
Ouais.
Dans le premier épisode de Necrochat plutôt,
Oui,
excuse-moi.
oui,
Grâce au stratagème de Warlock, en fait.
oui. Ouais, mais bon.
Bon, il y a des choses sympathiques, hein, du genre le retour de Feral.
Oui.
Bon, alors par contre, la façon dont elle disparaît m'a fait absolument pitié.
Ah
Je
oui.
pense que ça voulait être de l'humour de la part de Zeb Wells, mais j'ai pas trouvé ça très drôle.
Ça tombait à plat.
Un
Enfin,
petit
c'est
peu, ouais.
plutôt elle qui tombait.
Ouais, totalement. Mais voilà, donc c'est marrant parce qu'il replace un personnage qui a compté dans la vie des New Mutants, quoi. Donc voilà, il nous replace encore un personnage qui avait été oublié. Enfin, New Mutants X-Force. Donc voilà, on verra l'avenir puisque la fin de l'épisode quand même laisse présager quelque chose, un ajout dans l'équipe, peut-être.
Ouais.
On verra. Donc
Même sans doute.
je sais pas du tout. Est-ce que tout ça va pas disparaître avec la fin de Necrochat? On verra bien.
Ok.
En tout cas, c'est un peu simpliste.
Non mais voilà, pareil quoi, c'est vraiment une petite baisse de tension sur les magazines X ce mois-ci. Et puis on enchaîne avec
Avec une
Ah bah
autre
oui.
fin, Dark X-Men numéro 5, cinquième partie de la mini-série, hein, en 5. Scénario de Paul Cornell, dessin de Leonard Kirk, dessin et ancrage aussi, pardon. C'est le combat final entre X-Men et Norman Osborn. Tout ça dans la tête de Norman Osborn. Et les Dark X-Men qui sont aussi venus se joindre à la fête.
Bah,
Et
en même temps,
qui
c'est leur série, et c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, c'est de but en blanc, c'est finalement progressivement, c'était plus une série autour de X-Men et Norman Osborn que des Dark X-Men.
Dans cet épisode, ils sont totalement spectateurs de ce qui se passe. Ils ne contrôlent rien, ils n'arrivent à rien, mais ce sont des gros mauvais.
Oui. Non mais c'est assez étonnant en fait, j'ai l'impression que Paul Cornell, ça le faisait chier, on le comprend, d'écrire une série sur les Dark X-Men, donc il s'est dit je vais faire un truc sympa avec le retour d'X-Man et Norman Osborn. Et c'était plutôt sympathique. Bon, par contre, la fin.
Qu'adviendra-t-il de X-Man? Le reverra-t-on? Sait-on jamais.
Ouais, ouais,
Ah,
ouais.
c'est pas perdu encore.
Bon, disons que c'était sympathique, c'était une bonne surprise par rapport au peu d'intérêt que je mettais dans cette série au début.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le Goblin, écrit par Paul Cornell. Il n'est pas trop mal. Bon, c'est le Goblin dans la tête de Norman Osborn. Donc, moi, je
Ouais.
l'ai trouvé assez retors, quoi.
Non,
Bien,
mais c'est
comment
marrant
l'imaginer, quoi.
ce voyage dans la psyché de Norman. C'est vrai que c'est original, finalement, on l'avait jamais eu.
Pas que je sache, non, je ne crois pas.
Qu'un mutant affronte Norman Osborn, déjà, c'est rare, finalement. C'est d'ailleurs ce qui
C'est
manque.
arrivé dans Utopia, quoi.
Et ouais, mais c'est d'ailleurs ce qui manque, je trouve, pas mal à l'univers Marvel, encore, même si ces dernières années on en a eu quand même, c'est vraiment des ennemis, par exemple, que Fatalis affronte, je sais pas, je pourrais te dire Captain America, Iron Man, ou même Spider-Man, je trouve ça manque encore, quoi. C'est-à-dire que les ennemis restent que trop cantonnés à comment dire, à leur personnage, à leur
Alors, la
héros,
Némésis, ouais.
oui, voilà, leur héros, de base, quoi. Enfin, par exemple, Octopus, il va forcément affronter Spider-Man. Moi, j'aimerais bien qu'Octopus, il affronte un peu plus Norman Osborn, Tony Stark. Voilà, par exemple.
Et donc, tu milites pour le retour des Acts of Vengeance.
Eh ben oui. Non, mais dans l'idée, c'était bon. Dans l'exécution, c'était autre
C'était
chose. Mais
à chier, mais bon.
oui,
Par
c'était à
contre, ça,
chier.
non, mais l'idée était pas mal. L'idée de départ était pas
Mais
mal.
l'idée est pas mal et je suis d'avis pour que bah regarde ce qui s'est passé dans Dark Reign, hein. Finalement c'était tout le Marvel Universe contre Norman Osborn, ça a donné lieu à quand même à des histoires assez plutôt pas mal, hein. Cette dernière année c'était intéressant.
Bah tu auras bientôt Doom War, hein, ou Doom et
Non non
le
non
machin.
non 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 non, soyons sérieux 5 minutes.
Non mais c'est vrai que le souci que ça pose, c'est que généralement le némésis d'un héros, quand il va se battre contre un autre héros, il est toujours beaucoup plus pâle. Regarde à quel point Docteur Doom met en échec les Quatre Fantastiques. Et quand il allait, en tout cas dans les années 80, affronter d'autres personnages, je sais pas,
Ouais, mais
Spider-Man
il ne
ou
tient.
Iron Man, ils étaient toujours assez limites, quoi.
Oui, mais il ne tient qu'au scénariste de après d'écrire de bonnes histoires. Imagine-toi, par exemple, Docteur Octopus affronter Reed Richards. Franchement, il y aurait de bonnes choses à raconter.
Alors, je pense que Reed Richards en ferait de la poussière en quelques secondes, mais après, je
Oh,
compte pas.
pas dit, hein. Imagine qu'il prenne le contrôle du Baxter Building, par exemple, et qu'il arrive à le retourner contre Reed Richards, ce genre de choses, puisque
Enfin,
maintenant il a le contrôle de.
ça a déjà été fait de maintes et maintes fois par d'autres ennemis, ça.
Oui, mais bon, Octopus pourrait apporter autre chose, je sais pas. Voilà, bon, faut voir. Faut voir.
Bref, donc bah, c'est un X-Men assez moyen, somme toute, encore une fois.
Ouais, non mais Asto et X-Men, ce mois-ci, bof, quoi. Voilà.
Bah, le Uncanny était très bon, et d'ailleurs c'est bizarre, c'est que le Uncanny était encore une fois très bon. Et ça fait quand même maintenant plusieurs mois de suite que le meilleur épisode presque du mag, c'est le Uncanny X-Men. Donc aurait-on un
Bah,
retour à une tendance qui n'aurait jamais dû disparaître en fait, c'est-à-dire que Uncanny X-Men tient le haut du panier en ce
c'est
qui
vrai
concerne
que
la
ça
fanbase
fait de
militante.
nombreuses années que Uncanny X-Men était justement souvent le moins bon titre des titres principaux X-Men. Et bah peut-être que Matt Fraction a enfin trouvé ses marques, puisque au début c'était un. Bon, c'était pas terrible hein, au début. Voilà, c'était moyen, franchement moyen. Et puis petit à petit, mois après mois. Il a su quand même sortir de bons épisodes. Il y avait par exemple ces épisodes où ils étaient dans le passé, au début du siècle, je crois, avec ce Beast qui était sympathique. Enfin, il y a eu plusieurs trucs pas mal. Et
Oh,
puis
le début du X Club, ouais.
ouais, le début du X Club et puis maintenant Nation X qui est sympathique. Donc, voilà. Bah, écoute, à voir ce que va donner Second Coming hein, qu'on annonce.
Et puis bientôt le reboot, en tout cas en français, des séries X-Men. Voilà.
Ouais.
C'est dommage, c'est la fin d'une époque. Bien, bah c'est tout pour ce numéro 45 de Comic City. On se retrouve d'ici peu pour les sorties librairie du mois. Enfin, il y aura quelques kiosques aussi, et puis la librairie. Pas grand-chose hein, à se mettre sous la dent en cette fin de mois de décembre. Ce sera un épisode, je pense, un peu plus court. Bah, on se quitte comme toujours avec un petit rappel, hein. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Nous vous lirons les mails à l'antenne et puis nous répondrons s'il y a une question. Ou encore, vous pouvez nous laisser un petit message audio que l'on diffusera dans l'émission au 09 70 440 497. N'ayez pas peur, hein, on ne mord pas.
Non, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de message
Oui,
audio.
ça fait un petit moment, oui.
Je sais pas, il faudrait le rappeler, effectivement.
N'hésitez
Le
pas.
répondeur est
Parce que
activé. Et vous
c'est
pouvez
vrai que.
aussi. Oui, vous pouvez aussi nous laisser un message en rentrant le contact Comic City sur Skype.
Oui, sur Skype, oui. Vous entrez Comic City dans vos amis sur Skype et puis vous me laissez un message. Et surtout que bah, si on continue à pas trop avoir de messages comme ça, on coupera sûrement le répondeur parce que c'est quelque chose qui nous coûte de l'argent quand même. Voilà, on va pas renouveler un abonnement pour avoir un répondeur constamment si on n'a pas de message. Puisqu'on va pas continuer de
Non,
sortir
mais
de
non,
l'argent
on va
avec
faire comme
quoi.
certains, on va faire des faux messages. J'imiterai des voix.
Oui, mais non, on va peut-être pas en arriver à ce point-là.
Allô, c'est Comic City, bonjour.
Si tu nous fais Papy Mougeot, ça va pas le faire, quoi. Bref, donc c'est tout pour ce numéro et on se dit à très bientôt pour un prochain podcast.
Ciao,
À
ciao, rien à
bientôt.
dire. Ah, oui, à bientôt même.
Salut tout le monde.